Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Oui, c'est lundi, oui, c'est le début de la semaine, mais on est ensemble jusqu'à 9h. Très très bon début de semaine et soyez les bienvenus dans Apolline Matin. On va largement revenir ce matin sur les incendies et sur la vague de chaleur qui revient. Incendie d'abord, dans 10 minutes, nous serons en direct des Pyrénées-Orientales. Un incendie géant a déjà brûlé 4600 hectares. 10 000 personnes sont évacuées. Conséquence aussi de l'incendie, l'étape du Tour de France du jour qui arrive dans le département se fera sans spectateurs. Le directeur du Tour demande au public de ne pas venir voir l'étape. Et puis à 7h40, la nouvelle vague de chaleur, elle touche déjà la partie sud de la France, 16 départements en vigilance orange. Faut-il se ruer sur les clims ? Delphine Bateau, la députée écolo, ancienne ministre de l'écologie, attaque Lidl après les maxi-promos. Pour elle, Lidl a joué avec la souffrance des Français. Est-ce que ça veut dire que pour elle, la clim, ça doit rester cher, ça doit rester pour les riches ? Je lui pose évidemment la question à 7h40, mais je vous attends d'ici là. Avez-vous réussi à acheter une clim ? Ou pensez-vous qu'il faille s'en passer? Vous m'appelez au 3216, vous venez réagir, témoigner, et puis vos messages sur le WhatsApp 0612 424 424. Notez qu'à 8h30, mon invité nous dira justement s'il y a des ruptures de stock de clim ou de ventilateur. C'est Michel-Édouard Leclerc, prix dans les rayons, prix des fruits et légumes, prix de l'élevage, prix à la pompe. Toutes les réponses donc sur RMC à 8h30. Pour l'heure, il est 6h59. Dans un instant, le journal de 7h, mais tout de suite la météo, et c'est donc ces vigilances canicules.
16 départements qui sont en vigilance orange canicule. Il y en a 9 près de l'Atlantique jusqu'au Lot, et puis 7 près de la Méditerranée autour du golfe du Lion. Donc avec des températures très élevées cette nuit, il fait encore 26 degrés là en ce moment vers le golfe du Lion, 22 à Bordeaux ou La Rochelle. On grimpera jusqu'à 38 à Bordeaux cet après-midi, 37 à Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, 36 à Nantes ou La Rochelle, 35 à Paris, à Bourges, 34 à Lyon, 31 pour Lille et Brest. À noter quand même une bonne nouvelle, c'est que le vent est en nette baisse sur les Pyrénées-Orientales. On a encore un peu de mistral et le vent qui va s'éteindre demain, donc une bonne nouvelle sur le front des incendies. Demain, les températures qui vont encore grimper. Ensuite, on va avoir une évolution plus stable avec des températures qui vont rester autour de 35 degrés de moyenne sur le pays. Mais pour le moment, on ne voit pas la fin de cette vague de chaleur.
C'était la météo sur RMC. Bon réveil avec Apolline Matin.
Excellent réveil à tous, il est 7h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texard. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Tout quitter sans se retourner, 10 000 personnes d'une vingtaine de communes ont été évacuées dans les Pyrénées-Orientales en proie aux flammes d'un incendie qui a déjà ravagé plus de 4600 hectares. Coup de théâtre ce matin, Cédric Jubilard serait passé aux aveux dans une lettre adressée à ses avocats révélée par nos confrères de la Dépêche du Midi. Et le Mexique et le Brésil à la trappe, éliminés de la Coupe du Monde par l'Angleterre et la Norvège qui se retrouveront en quart de finale.
4600 hectares ont déjà brûlé dans les Pyrénées-Orientales.
Nouveau bilan de cet incendie qui n'est toujours pas fixé ce matin. Le plus important de l'année à ce jour, toujours en cours à l'ouest de Perpignan, obligeant les autorités à évacuer les habitants de 26 communes alentour. 10 000 personnes ont dû quitter leur maison à la hâte. C'est le cas à Lille-sur-Tête où s'est rendu notre envoyé spécial sur place, Rachel Sadodine.
Au-dessus de nos têtes, un balai constant d'hélicoptères et d'avions bombardiers d'eau. La fumée envahit le centre-ville, l'air irrespirable pique les yeux de Lina, déjà en larmes.
Ils ont dégagé tout le monde là-bas, la gendarme. Sortez, il faut sortir de la maison, parce que là-bas, la maison, elle brûle.
Sortie de chez elle à la hâte, avec seulement un sac à main, Lina peine à ravaler ses sanglots.
Il ne laisse pas rentrer. Il dit qu'il faut prendre des bus qui sont là. Mais je pars pas d'ici. C'est ma maison là, je parle pas d'ici.
Une dizaine de bus arrivent pour évacuer les habitants en panique.
Je vais pas aller à Perpignan, moi, il est chien, faut pas les laisser.
Aude habite Y-sur-Tête depuis 26 ans. Elle décrit une scène apocalyptique du jamais vu.
Ça a brûlé juste à côté, du coup ça pète, il y a les voitures qui brûlent et ils nous ont demandé d'évacuer.
Vous voyez les flammes depuis chez vous?
Ah oui, moi je les ai vues, ouais. C'est impressionnant, l'odeur c'est insupportable. Attendez.
C'est une ambulance qui arrive pour prendre en charge une vieille femme juste à côté de nous.
Ça va aller madame?
Jusqu'ici retranchée dans la salle municipale, les habitants sont pressés d'évacuer la commune. Masque sur le nez, ceux qu'ils peuvent rejoignent leur voiture pour être accueillis chez des proches. Les autres trouveront refuge dans plusieurs gymnases de la région.
À noter qu'une personne, un habitant et un pompier ont été blessés en urgence absolue. Au total, 3000 soldats du feu sont en ce moment mobilisés dans le sud afin de lutter contre une vingtaine d'incendies comme dans la Drôme où plus de 500 hectares ont brûlé autour de l'Édénon. Un feu fixé ce matin mais toujours actif. Des feux et des conséquences dans les Pyrénées-Orientales. La troisième étape du Tour de France entre Granollers en Espagne et les Angles est maintenue mais adaptée sans public sur la partie française de l'étape.
Le peloton à l'épreuve de la chaleur aussi.
16 départements sont en vigilance orange de la Vendée aux Landes, des Pyrénées-Orientales à la Drôme. On pourrait atteindre les 40 degrés localement. Une troisième vague de chaleur en même pas deux mois avec encore une fois de nombreuses interrogations. Géraldine Demory est restée avec nous. Géraldine, on ne connaît pas encore l'ampleur de cet épisode ni sa durée dans le temps.
Non, pour le moment, on n'a aucune date de fin. A priori, ce sera un épisode un peu moins intense que celui du mois de juin qui était historique, mais ça va être un épisode durable. Ce qu'on sait, c'est que dans un premier temps, les températures vont encore augmenter. Demain, les très fortes chaleurs épargneront seulement les bords de Manche avec quand même 30 degrés. Les 40 degrés, eux, seront fréquents entre la Nouvelle-Aquitaine et le Golfe du Lion. Les nuits vont devenir de plus en plus difficiles. On devrait avoir une évolution de la vigilance orange en direction des régions du centre et du bassin parisien. À partir de mercredi, les températures devraient assez peu évoluer. On va rester sur un plateau haut. Et ensuite, alors les modèles ne sont pas tous d'accord. On pourrait avoir un air plus océanique ou alors une extension de la chaleur vers le nord. Ce qui est particulièrement difficile, en tout cas pour les organismes, c'est la répétition de ces épisodes de chaleur extrême sans réelle pause. Et c'est bien une manifestation très concrète du changement climatique.
Les précisions de Géraldine Demory.
7h04 sur RMC, des aveux qu'on n'attendait plus, ceux de Cédric Jubilard.
Il reconnaît sa culpabilité dans la disparition de sa femme Delphine en 2020 dans le Tarn et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Coup de théâtre dans cette affaire judiciaire qui a marqué les 5 dernières années, condamné à 30 ans de réclusion criminelle. C'est à 2 mois de son procès en appel qu'il confesse ses aveux, Marion Gauthier, dans une lettre adressée à ses avocats révélée ce matin par nos confrères de la Dépêche du Midi.
Oui, une lettre manuscrite et des aveux formels remis ces dernières semaines à l'un de ses avocats. Dans le document, Cédric Jubilard revient sur cette soirée du 15 au 16 décembre 2020 dans le Tarn, sur cette énième dispute avec son épouse Delphine. Elle envisage de refaire sa vie avec un homme, des insultes aux refusés, la dispute dégénère. Comment a-t-il tué l'infirmière de 33 ans? Où a-t-il caché son corps? L'accusé réserve les détails de la disparition à la justice, déclare son avocat à la Dépêche du Midi, maître Pierre de Buisson, qui dit le soulagement de son client, son besoin de parler. Dans cette démarche, ajoute-t-il, Cédric Jubilard veut donner une sépulture à la mère de ses deux enfants. Il va devoir être réentendu. De nouvelles investigations devraient être menées. Le peintre plaquiste a été incarcéré, placé à l'isolement il y a 5 ans, condamné en octobre dernier à 30 ans de réclusion criminelle. Le procès en appel devrait s'ouvrir en septembre.
Les précisions de Marion Gauthier en direct ce matin pour RMC. L'avenir politique de Marine Le Pen en suspens. La chef de file des députés RN sera fixée sur son sort demain en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. En attendant, c'est tout sourire qu'elle s'est affichée hier à la fête champêtre de Liévin dans le Pas-de-Calais aux côtés de son dauphin Jordan Bardella. Appelé à lui succéder en cas de condamnation comme en première instance à une peine d'inéligibilité, attente fébrile du côté de ses partisans au Rassemblement National rencontré hier par Sonia Gobry pour RMC.
Le sourire est là, mais Valérie camoufle son stress.
Ça approche, hein. On est
et c'est aussi le brouillard dans la tête de Liliane et Patricia.
C'est compliqué à répondre, on est inquiète quand même.
J'espère en même temps, parce que je voudrais vraiment qu'elle passe, qu'elle puisse se présenter.
Ils le disent du bout des lèvres, mais chez ces militants du Rassemblement National, l'espoir d'une candidature de Marine Le Pen en 2027 est très mince.
Ça passera pas, non?
Malheureusement, je ne suis pas très optimiste. Tout est fait pour.
Si les cadres du RN adoptent un ton plus mesuré et évitent maintenant d'attaquer frontalement les juges, les militants, eux, crient toujours au complot.
Ça, c'est clair. Je pense pas que la justice soit totalement impartiale en France. Donc c'est quasiment joué, bien sûr.
Ouais, c'est un complot, pour pas qu'elle puisse se passer.
Mais je sais que le Rassemblement National sera rebondir.
Parce qu'il y a le plan B pour Bardella.
C'est pareil, on est une famille.
Si elle était toute seule, on n'avait rien derrière. Mais heureusement qu'il est là pour tous les gens du RN.
Si Marine, malheureusement, elle ne pourra pas passer. Ça sera Jordan, pour tout le monde, c'est comme ça.
Elle sera Jordan, elle sera derrière lui.
Marine Le Pen l'a promis, elle ne s'effacera pas. Le RN mènera cette campagne en binôme, même si elle doit passer la main à Jordan Bardella.
Et puis l'Angleterre file en quart de finale du mondial.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Qualifié cette nuit au Mexique, face au Mexique, 3-2 après sûrement le match le plus spectaculaire de ce mondial pour l'instant. Vous l'avez vécu sur RMC avec Edgar Grollo au commentaire. On vous retrouve, Edgar, ce matin. Vous êtes en direct du stade Azteca, un stade en larmes à l'issue du coup de sifflet final au terme d'un match difficile pour les Anglais qui réussissent à sortir du piège mexicain.
Oui, les Anglais ont tenu plus d'une demi-heure en infériorité numérique et ont survécu l'enfer du stade Azteca, une rencontre jouée à 2200 mètres d'altitude à Mexico, dans une ambiance volcanique. Avant ce soir, les Mexicains n'avaient perdu que deux matchs officiels dans leur histoire ici. C'était un scénario fou, un pénalty de chaque côté, un carton rouge pour les Anglais. Mais à la fin, ce sont bien les Three Lions qui continuent leur route en Coupe du Monde. Le capitaine Harry Kane a marqué son sixième but depuis le début de la compétition et le milieu de terrain Jude Bellingham a surtout signé un doublé. Nommé homme du match, il assure avoir vécu la plus belle soirée de sa carrière avec l'Angleterre et n'avoir jamais été aussi fier d'une équipe. Et grâce à cette victoire, l'Angleterre valide donc son billet pour les quarts de finale où elle retrouvera la Norvège samedi prochain.
La Norvège, tombeur du Brésil de 2-1, qui se qualifie donc pour la première fois de son histoire en quart de finale grâce à un doublé d'Erling Haaland. Neymar, qui marque le but brésilien sur pénalty, annonce en larmes la fin de son aventure avec la Seleção à suivre ce soir. L'Espagne et le Portugal, 21h sur RMC, suivi de Belgique et États-Unis. Les Américains avec leur attaquant Balogun qui a vu son carton rouge levé après un coup de fil de Donald Trump au président de la FIFA.
C'était le journal de Thibaut Texer et puis on vous offre vos vacances sur RMC dans la Pauline Matin cette semaine. Vous remportez vos prochaines vacances à la mer ou à la montagne. À gagner, il y a un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellembrun, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. Vous allez pouvoir choisir parmi 45 destinations dans tous les plus beaux endroits de France où Bellembrun s'occupe des enfants, des activités, des repas. C'est le tout compris premium. Pour remporter votre séjour Bellembrun, vous envoyez tout de suite vacances au 732-16. Vacances au 732-16 et RMC s'occupe de tout. Bonne chance à tous.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bellembrun. Bellembrun Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les habitants de 26 communes de Pyrénées-Orientales appelés à évacuer. Le feu a parcouru 4600 hectares, un feu géant et toujours incontrôlable. Bonjour Éric Brocardi.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Vous êtes sur place, vous allez nous faire un point sur la situation. Et puis nous serons aussi en direct avec le maire de Angles, des Angles dans ce même département. C'est là où doit arriver l'étape du Tour de France, une arrivée qui va se faire sans spectateurs. Vous nous le dites dans un instant. Et puis vous n'hésitez pas à nous appeler au 3216 si vous êtes dans le coin, dans la région, si vous voyez ces feux de loin, si vous les redoutez. N'hésitez pas, bien sûr, on vous ouvre le standard. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. 10 000 personnes évacuées, le feu qui progresse toujours dans les Pyrénées-Orientales ce matin. Bonjour Éric Brocardi.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole des sapeurs-pompiers de France. On va faire un point avec vous sur la situation sur place dans un instant. Mais juste avant, je voudrais saluer Michel Poudade qui est avec nous en direct. Bonjour Monsieur le maire. Vous êtes le maire des Angles. C'est cette commune du département qui accueille cet après-midi l'arrivée du Tour de France. Arrivée qui se fera sans spectateurs. Vous nous le dites dans un instant. Mais globalement, Éric Brocardi, quelle est la situation ce matin?
Vous avez vu sur la déclaration du préfet, le feu n'est toujours pas fixé. C'est 4600 hectares, vous l'avez évoqué. Même s'il y a eu une opération, on va dire, favorable pendant la nuit, puisque les conditions météorologiques ont été, on va dire, assez plus clémentes pour les sapeurs-pompiers. Alors, clémente, toute relativité, bien parlé. Ça veut dire tout simplement qu'on a eu une baisse du vent d'à peu près entre 5 et 10 km/h, un abaissement léger au niveau des températures. Donc, ça veut dire que ça a été des situations un peu plus favorable pour travailler sans forcément être perturbé par ces conditions météorologiques. Donc le feu en général pour les sapeurs-pompiers la nuit, ça reste très dangereux pour eux-mêmes, mais par contre ça reste des conditions favorables en termes de lutte avec ces conditions météorologiques qui se radoucissent. Donc forcément, on est sur un sujet aujourd'hui où l'ensemble des sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés peuvent encore y continuer d'arrache-pied à pouvoir essayer de maîtriser ce feu. Parce qu'aujourd'hui, ça va être ce matin notamment l'objectif.
Vous redoutez effectivement que le vent ne se lève à nouveau, ne reprenne. À quoi vous vous attendez là pour les minutes, les heures qui viennent?
C'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on a une course contre le temps avant que le vent commence puisse à se relever en fin de matinée. Donc il y a une lutte sans relâche qui va s'opérer. Les sapeurs-pompiers ont été vraiment, vraiment à la manœuvre et on peut être qu'admirable vu le travail qu'ils ont effectué. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ce sont eux, comme les communes, comme l'ensemble des associations agréées de sécurité civile, les forces de l'ONF et gendarmerie, qui ont permis justement de pouvoir essayer d'apporter à la fois réconfort, mais surtout le protection et le sauvetage des biens tant qu'ils ont pu le faire.
D'autant plus qu'on va évidemment parler des habitants qui ont été évacués, mais il y a quand même une question qui se pose, Éric Brocardi, et qui rend cette lutte extrêmement difficile. Le préfet des Pyrénées-Orientales disait regretter que les départements alentours ne puissent pas envoyer de renfort parce qu'ils sont eux aussi, en réalité, concentrés sur des feux.
Exactement ça, c'est tout le problème quand vous vous retrouvez dans le sud de la France, au niveau des Pyrénées-Orientales notamment, quand vous avez l'Aude qui est pas loin, qui effectivement est soumis à un risque feu de forêt non seulement prévenant avec des incendies, quand vous avez le Gard non loin aussi, qui se situe aussi avec 5 feux sur zone. Heureusement, l'ensemble ont été fixés avec déjà 500 pompiers au sol. Vous avez les Alpes-Maritimes, d'un point de vue de projection, qui sont arrivés dans cette zone-là, mais eux aussi étaient contenus avec un haut risque. Donc forcément, aujourd'hui, il y a quelque part, non pas de la réticence, mais tout simplement, on essaie d'adapter l'ensemble des moyens en fonction de là où il y a les risques.
Et vous lancez un appel, Éric Brocardi, vous le lancez tous les étés, mais j'ai presque envie de dire cette fois-ci plutôt que d'habitude et plus intensément. Cet appel, il s'adresse à tous les employeurs, il y en a de très nombreux qui nous écoutent,
mais vous savez,
pour qu'ils libèrent les pompiers volontaires parmi leurs salariés.
Vous savez que 80% de nos effectifs, et vous le savez très bien vous, Apolline,
engagée pour vous, je trouve ça important et il faut le redire ce matin.
Et en 2022, vous étiez justement au Congrès national, justement pour porter le sujet du dérèglement climatique et de l'engagement des sapeurs-pompiers. Et donc ce que je dois vous dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, si aujourd'hui, dans l'Aude par exemple, il n'y avait pas tous les sapeurs-pompiers volontaires qui étaient libérés par les services des communes, forcément nous aurions eu des difficultés. Donc aujourd'hui, ce que vous avez dit, c'est très important. L'ensemble des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, qu'ils fassent tout et qu'ils fassent tout pour pouvoir les libérer afin de pouvoir rejoindre les casernes et les véhicules, parce qu'il y a aussi tous ces hommes qu'on dit à pied qui descendent de différents départements pour assurer les secours du quotidien, parce qu'il n'y a pas que les feux de forêt, il y a aussi l'ensemble des missions de secours d'urgence aux personnes.
Et les secours d'urgence avec notamment effectivement ces 5500 habitants de l'Isle-sur-Tête qui ont donc été appelés à évacuer et qui ont dû quitter les lieux. Éric Brocardi, restez avec nous, mais on accueille tout de suite donc Michel Poudat, je vous saluais à l'instant, vous êtes avec nous, vous êtes le maire des Angles, c'est une petite commune d'altitude des Pyrénées-Orientales. Vous accueillez cet après-midi l'arrivée du Tour de France, c'est un moment normalement d'effervescence, sauf que ça sera sans spectateurs. Le directeur du Tour a appelé le public à ne pas venir. Comment vous le vivez ?
Écoutez, bonjour. Tout d'abord, c'est vrai que d'abord, je voudrais dire toute ma solidarité aux feux qui sont à quelques dizaines de kilomètres de chez nous. Et bien sûr, nous avons aussi libéré les éléments qui sont des bénévoles pour aller sur ce feu d'ampleur gigantesque. Et donc, tout d'abord, ma pensée à ces populations qui sont frappées. Après, pour le Tour de France, il est certain que c'est de la tristesse.
Bien sûr, ça doit être une grosse déception quand même.
Voilà, c'est une déception. C'est quelque chose qui, pour la population, on est un village de 680 habitants, même si on est une station touristique. Aujourd'hui, il y a dans les Angles 12 000 personnes qui sont venues pour cette fête populaire, festive, et qui rassemble les populations autour d'un événement, et donc d'arrêter tout ce côté-là est quand même crève-cœur. J'ai encore vu des commerçants ce matin qui, bien sûr, vont perdre sur cette journée parce qu'ils ont commandé, ils attendaient 20, 25 000 personnes et puis tout s'arrête d'un coup. Donc voilà, on est dans un système de précaution en France sur les 30 kilomètres qu'ils devaient faire sur la France, ne se feront pas ou se feront juste sans caravane.
Vous trouvez que c'est excessif ? Vous pensez que c'est excessif quand même là, c'est la précaution poussée trop loin ?
Je pense qu'à un moment, mais c'est sûr que c'est la déception, donc on a toujours tendance à penser qu'on aurait pu faire peut-être autrement par rapport à cette déception, mais la déception elle est celle du maire bien sûr, mais elle est surtout de toute la population, de tous ces commerçants qui depuis un an préparent cet événement, donc Oui, peut-être on est allé trop loin, mais voilà, je veux pas parler.
Vous aurez des... Est-ce que vous aurez des aides? Est-ce qu'il y aura quand même une manière de compenser? Est-ce que vous savez si quelqu'un, quelque chose, soit l'État, soit l'organisation du tour, ou est-ce que c'est jamais prévu ce genre de situation?
Oh, mais je pense que c'est jamais prévu. Voilà. Mais bon, on va accueillir quand même, et j'espère que les images et les journalistes seront bien retracés ce magnifique paysage qu'ils vont traverser. Donc, on va rester optimiste. De toute façon,
on le fera.
On n'a pas d'autre choix. Donc, voilà.
On le fera. C'est promis. Merci beaucoup, merci, Michel Coudade, en tout cas, maire des Angles, donc cette commune des Pyrénées-Orientales, avec l'étape donc aujourd'hui. Et merci beaucoup, Éric Brocardi. On l'a bien entendu. Hein, la vigilance doit rester très 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 importante avec ce feu qui n'est toujours pas maîtrisé dans les Pyrénées-Orientales. Il est 7h20 sur RMC et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, l'historien d'Apolline Matin. L'un des symboles du Mont Blanc va disparaître. Le refuge du Goûter est en train d'être démonté.
Et oui, c'est un chantier hors norme pour un refuge situé à 3800 mètres d'altitude. C'est là qu'est né l'alpinisme moderne, Apolline.
Vous nous le racontez dans un instant. À 8h30, on va parler de votre pouvoir d'achat. L'invité du face-à-face, ce sera le patron des magasins Leclerc, Michel-Edouard Leclerc. On va parler clim, ventilateur, est-ce qu'ils seront disponibles, est-ce qu'il y a des ruptures de stock, mais aussi la question des prix, et notamment des prix des denrées fraîches, des produits agricoles. Est-ce que la sécheresse, le feu, la chaleur vont faire monter les prix? Réponse donc à 8h30. Ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes, il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, ce matin on va partir dans les Alpes, plus précisément au Mont Blanc. Un monument de la haute montagne, le refuge du Goûter, est en train d'être démonté. C'est à plus de 3800 mètres et c'est une opération d'ailleurs hors norme.
Eh oui, le refuge du Goûter, c'est un des plus anciens du Mont Blanc. Le Goûter, c'est le nom de l'aiguille où il est construit et il y a un refuge à cet endroit-là depuis le milieu du 19e siècle. C'est donc un démantèlement très symbolique mais aussi très périlleux. Puisque c'est à presque 4000 mètres d'altitude, l'opération a commencé début juin, ça se terminera à la fin juillet. Au total, c'est 70 tonnes de matériel qu'il va falloir évacuer et pour ça, il faudra 140 rotations d'hélicoptères.
Alors d'où vient ce nom du Mont Blanc ?
Alors on l'appelle comme ça depuis le 17e siècle, tout simplement parce qu'il y avait toujours de la neige sur cette montagne. Mais il avait aussi un autre surnom, on appelait ça la montagne maudite, puisqu'il y avait énormément de superstitions à propos de ce sommet qui tutoyait les nuages. On racontait même que ces glaciers étaient tentés par des fantômes. Bref, le Mont Blanc, ça faisait peur à tout le monde. Personne n'osait l'escalader. Mais il y a un homme qui était fasciné par cette montagne. Cet homme, c'était un scientifique suisse. Il s'appelait Horace de Saussure. Et en 1760, il propose une énorme somme d'argent à quiconque aurait le courage d'escalader le Mont Blanc.
Et personne n'a répondu à sa proposition ?
Non, personne. Du moins, dans un premier temps, ça va quand même durer 15 ans. 15 ans, et au bout de 15 ans, il y a une équipe qui va oser l'ascension. C'était en 1775, et ça va tourner à la catastrophe. Les alpinistes ont très froid, ils manquent d'oxygène, puisque plus vous montez, plus c'est difficile. Il y a des crevasses, des avalanches partout. Ils prennent peur et ils rebroussent chemin pendant 10 ans. D'autres vont essayer et tous vont échouer. Décidément, le Mont Blanc est imprenable.
Finalement, deux aventuriers vont vaincre la montagne.
Oui, ça arrive. Nous sommes en 1786. Un médecin qui s'appelait Michel Paccard et un guide de montagne qui s'appelait Jacques Balma partent à l'assaut du plus haut sommet d'Europe. Ils viennent tous les deux d'un village au pied du Mont Blanc qui s'appelle Chamonix. À l'époque, vous étiez très mal équipés, Apolline. Pas de crampons, pas de vêtements antifroid, pas de GPS comme aujourd'hui. Vous aviez tout simplement des chaussures de cuir, des grosses laines et un bâton, et puis basta. Malgré ces difficultés, ils atteignent le sommet d'un Mont Blanc qui s'avoue enfin vaincu, ce qui vaut à Paccard et Balma, nos aventuriers, de devenir des célébrités dans toute l'Europe.
Aujourd'hui, des milliers de personnes escaladent le Mont Blanc.
Et oui, entre 15 et 20 000 personnes tentent l'ascension tous les ans. Il y a tellement de demandes d'ailleurs qu'on a limité le nombre d'alpinistes par jour. 214 par jour, pas plus.
Ah, déjà énorme.
C'est déjà beaucoup. Le record de l'ascension du Mont Blanc est détenu par deux Français. C'était en avril 2026. Ils ont fait l'aller-retour, alors à ski, en 4 h 41 minutes. Pour comparer, en 1786, Paccard et Balma avaient mis un peu moins de 24 heures.
Merci beaucoup Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, une chronique à retrouver dès maintenant en podcast. Et le plus simple, c'est d'ailleurs d'aller directement sur l'application RMC. Il est 7h25, on part au 32-16. Emmanuel qui nous appelle de Vendée. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Emmanuel? Vous êtes éleveur de bovins, lait et viande, donc à Maché en Vendée. Vous vouliez réagir à cette histoire de clim. Je vous l'ai dit, à 7h40 tout à l'heure, mon invité s'est Delphine Bateau, elle accuse Lidl de jouer, je cite, avec la détresse des Français en ayant fait ces espèces de maxi-promos qui d'ailleurs à ses yeux ne seraient pas forcément des super promos. Mais je posais la question et je lui poserai à elle, est-ce qu'elle préférerait dans ces cas-là que la clim ça reste un truc pour riches? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Emmanuel?
Bah, moi, la clim, je pense que c'est un truc pour riches. Hein. Après, chacun fait ce qu'il peut pour se rafraîchir au mieux.
Voilà,
moi,
chacun lutte.
Moi, j'ai une petite solution. Hein. Ah. Ça ne vaut pas une fortune. Hein. Nous, pour nos vaches, on a installé des ventilateurs géants dans les bâtiments pour les rafraîchir. Elles ont besoin de ça pour chasser les chaleurs. Et bah, du coup, j'ai fait la même chose. J'en ai mis un dans ma chambre.
Donc, ventilateur, ça vous suffit?
Mais un ventilateur au plafond.
Ah, au plafond. C'est les... ah, donc, voilà. Dans... ça veut dire que dans l'étable des vaches, vous leur avez mis des ventilateurs au plafond?
Oui, c'est des ventilateurs qui font 7 mètres de diamètre.
Waouh!
Ils sont au plafond. Et d'accord. Du coup, ça brasse énormément d'air et ça les soulage énormément. Et on a une sensation de enfin, pas de fraîcheur, mais on rabaisse la température. C'est pas de combien de degrés, moi.
C'est beaucoup plus agréable.
On a vraiment cette sensation qui est beaucoup plus agréable avec un petit courant d'air.
Et vous avez mis la même chose dans votre chambre?
Ben, c'est pas les mêmes, du coup.
Oui, mais j'imagine qu'il fait pas 7 mètres de, voilà, pas 7 mètres de diamètre. Enfin, voilà, sauf c'est... si vous avez une très très grande chambre.
Non. C'est Mia qui fait 1m20 de diamètre. Ça fait
voilà,
pas de
bon. Donc, mais bon, ça rafraîchit vraiment la pièce, quoi.
Oui, voilà. Et on dort beaucoup mieux.
Vous dormez avec?
Simplement. Voilà.
Ok. Bon, elles ont l'air bien soignées, vos vaches, Emmanuel. Ça donne envie de.
J'ai dit à ma femme, écoute, maintenant les vaches, elles sont mieux que nous. Alors, il va falloir trouver une solution.
Exactement. Bon, bah, donc vous êtes bien. Merci beaucoup, Emmanuel, en tout cas, d'être passé par le 32-16, Emmanuel, qui nous appelait de Vendée. N'hésitez pas, comme lui, à nous appeler ou à interpeller, tiens, Delphine Bateau, donc l'ancienne ministre de l'écologie, qui veut attaquer Lidl. Ce sera à 7h40 dans ce studio. Mais à tout moment, évidemment, vous nous appelez au 32-16. Il est 7h27. À tout de suite pour la météo et le genre. Presque 7h30 sur RMC et c'est la canicule qui revient.
Avec toujours 16 départements en vigilance orange, on en a 9 près de l'Atlantique jusqu'au Lot et puis 7 près de la Méditerranée, des Pyrénées-Orientales au Gard, Vaucluse, Drôme et Ardèche, avec des températures qui sont restées très élevées pendant la nuit, 22 degrés à Bordeaux, à La Rochelle, 26 degrés à Perpignan ou Montpellier. On attend cet après-midi 38 degrés pour Bordeaux, 37 à Marseille, Perpignan, Montpellier, Toulouse, Limoges ou Biarritz, 36 à Rennes, Nantes, La Rochelle, 35 à Paris ou Bourges, 34 à Lyon comme à Grenoble ou Dijon, 32 à Nancy, 31 à Lille ou Brest. À noter quand même une bonne nouvelle, c'est que la tramontane a nettement faibli sur les Pyrénées-Orientales et devrait totalement s'éteindre pour demain. Demain, où on va encore avoir des températures en hausse, on pourrait atteindre les 40 degrés assez fréquemment entre la Nouvelle-Aquitaine et l'intérieur du Golfe du Lion. Il n'y a que vers les côtes de la Manche hein, où on sera sous les 35 degrés. Mercredi, on va avoir des conditions extrêmes en Méditerranée avec le retour du vent, donc un air très sec et très chaud, et donc une vague de chaleur qui va se poursuivre, dont on ne connaît pas encore la fin.
C'était la météo sur RMC. Bonne journée.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Retour de la canicule, donc au pire moment pour les pompiers. Vous l'entendiez, 16 départements du Sud en vigilance orange, dont les Pyrénées-Orientales ravagées par des flammes qui redoublent d'intensité. Nous y serons en direct dans un instant. Le travail, l'entreprise d'une vie réduite à néant, plus de 34 000 défaillances depuis le début de l'année, chiffre révélé par RMC qui a accompagné des petits patrons au tribunal. Et le déclin d'une nation phare du foot mondial, le Brésil, éliminé de la Coupe du Monde par la Norvège en 8e de finale du jamais vu en 36 ans.
L'accalmie n'aura duré que quelques jours. La canicule fait son retour.
À peine le temps de respirer, revoilà les 40 degrés qui pourraient être atteints localement dans les 16 départements du Sud et du Sud-Ouest, désormais en vigilance orange. Ce sera le cas notamment à Bordeaux, déjà durement touché par la dernière vague de chaleur, d'où la crainte des habitants, Cassandre Brault.
Casquette sur la tête, cachée derrière de grandes lunettes de soleil, Anne se remet à peine de la canicule d'il y a 2 semaines.
J'appréhende beaucoup parce que je l'ai très mal vécu, c'est très compliqué pour moi.
Car il a fait jusqu'à 42,5 degrés à Bordeaux, un record absolu pour la ville.
J'ai jamais vécu la chaleur aussi difficilement, vraiment c'était éprouvant. Pour moi c'est le terme vraiment qui ressort, c'est éprouvant et oui, je pense que là ça va être compliqué.
Comme beaucoup d'habitants de la région, Claire n'a pas réussi à s'équiper en climatiseur, alors elle s'organise.
Je me levais un petit peu plus tôt le matin, aérer un maximum avant de partir.
partir.
Mais cette jeune active sait que ça ne va pas suffire.
Je m'y prépare comme je peux, mais je sais que je vais pas beaucoup dormir. Ouais. Fatiguée d'avance, en fait. On est toutes fatiguées. Donc, en fait, il faut fuir Bordeaux.
C'est justement ce qu'a prévu Romane, qui a la chance de ne pas travailler aujourd'hui.
On va essayer de trouver une voiture pour partir à la plage, ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est brûlant, quoi. Enfin, il n'y a pas d'air, donc on respire, mais c'est comme si on était dans un four tout le temps et ne pas aller à la plage, c'est pas possible.
La jeune femme appréhende. Elle a peur que même au bord de l'océan, les températures soient suffocantes.
Ouais, suffocante et propice aux incendies qui se déclenchent simultanément. Situation extrêmement tendue, surtout dans les Pyrénées-Orientales. Les pompiers sont à pied d'œuvre à l'ouest de Perpignan. Évacuation d'urgence pour plus de 10 000 personnes depuis hier soir. Comme à Lille-sur-Tête, où vous êtes en direct pour RMC, Jean-Wilfried Forquès, et où le feu est toujours hors de contrôle.
Oui, c'est ça, Victor. C'est une lutte acharnée, mais le feu n'est toujours pas maîtrisé. Le feu n'est toujours pas fixé ici sur place. Le combat pour les pompiers s'est poursuivi durant toute la nuit dans des zones escarpées, des zones qui sont souvent difficiles d'accès. Tout à l'heure, au lever du jour, on a vu des premiers survols d'hélicoptères, des Canadair, des Dash ont survolé le ciel pour bombarder avec de l'eau les zones en difficulté. Dans le secteur, 26 communes ont dû être évacuées. De façon préventive, évacuation préventive à la demande du préfet. 4500 hectares au total depuis hier sont partis en fumée. 700 pompiers restent mobilisés. Ils se relaient sur le terrain pour ce difficile combat qui va se poursuivre certainement toute la journée. Une donnée à prendre en considération, le vent, il affaiblit la nuit dernière, mais depuis quelques minutes, il recommence à souffler en rafale.
Et l'envoyé spécial de RMC, Jean-Wilfried Forquès, en direct de Lille-sur-Tête. Le Tour de France passera justement aujourd'hui à quelques kilomètres de là. Arrivé aux Angles, les décisions prises hier par les autorités, ce sera sans public au bord des routes. Incendie, notez-le, en cours aussi dans l'Aude voisine, dans l'Ariège, dans l'Hérault, la Drôme. Le feu a en revanche été fixé dans le Gard. Ce rebondissement dans l'affaire Jubilard, après avoir nié le meurtre de sa femme Delphine en 2020, au point de faire appel de sa condamnation, Cédric Jubilard avoue le crime dans une lettre à son avocat. C'est en tout cas ce que confirme maître Pierre Debuisson à la Dépêche du Midi ce matin. On y reviendra largement dans le journal de 8h. Les faillites d'entreprises continuent de battre des records. 34 322 défaillances, très exactement, depuis le début de l'année, en hausse de 4,8%. Ce sont les chiffres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qu'RMC vous dévoile en exclusivité. Les dissolutions et les liquidations augmentent, elles, de 17%. Elles atteignent un niveau jamais atteint jusque-là. Et c'est toujours un déchirement pour les patrons que vous avez suivis, Victor Joannin.
Au tribunal d'Avignon, on reconnaît facilement les dirigeants convoqués. Ils ont les traits tirés, la mine sombre et l'air intimidé par la solennité des lieux.
Toi, tu es un petit campagnard de ton truc, t'as jamais eu à faire la justice de toute ta vie et tu te retrouves là, avec c'est très dur.
Patrice a 62 ans, il est aujourd'hui contraint de céder son imprimerie pour éponger ses dettes.
Comme c'était une petite boîte familiale, il fallait prendre des décisions qui étaient drastiques. Et j'ai pas voulu les prendre, parce qu'il y avait des gens avec qui je travaillais depuis 40 ans, j'avais été au baptême, j'avais été au mariage, j'avais été à des anniversaires. Donc tu essayes de tenir, et puis voilà. Et à un moment, tu te retrouves là, sur Avignon, au tribunal.
Monsieur Patrice, l'imprimerie nouvelle.
Les audiences s'enchaînent, Frédéric sort de la sienne, il vient de demander au juge de liquider sa petite entreprise de carrosserie.
C'est très bien passé, les gens sont très compatissants. Là, bon, là, je vais être quand même avec un liquidateur, et après... Après, je serai libéré. C'est le mot, hein. Sort du tribunal, on est libéré.
Libéré de cette pression permanente, Frédéric a perdu son entreprise, mais il retrouvera facilement un poste de carrossier.
Victor Joannin pour RMC, 7h35 sur RMC. La Coupe du Monde et le football, il a changé.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Il a changé et nouvelle illustration cette nuit avec la Norvège qui a éliminé le Brésil de Buzyn grâce à un doublé de son attaquant Erling Haaland. C'est la première élimination en huitième de finale d'un mondial depuis 1990 pour les Brésiliens. Aurélien Tiersin, une désillusion pour les joueurs et leurs supporters.
C'est un traumatisme de plus pour les Brésiliens. L'attaquant Matheus Cunha a les larmes aux yeux après l'élimination.
La frustration est trop forte. On connaît le poids de notre maillot et on essaye de représenter tout le Brésil.
Le Brésil n'a plus atteint la finale depuis 2002. Le capitaine Marquinhos assume.
C'est ma faute comme capitaine, comme les joueurs d'expérience. Maintenant, place à la nouvelle génération. Il faudra les laisser travailler.
Les supporters de la Seleção repartent d'une Coupe du Monde encore une fois. Lillois très déçu.
La déception est immense. On venait avec joie pour le match, pour gagner, et c'est la défaite encore.
Ils n'ont montré aucune fierté pour le drapeau.
C'est aussi la fin pour Neymar en équipe du Brésil après 130 sélections. Son ancien coéquipier Néné le vit mal.
C'est pas la fin qu'on attendait. On était, tu vois, il était très content. On était ensemble hier, avant-hier. Et voilà, je suis vraiment triste pour lui.
En revanche, le sélectionneur Carlo Ancelotti reste et devra tout reconstruire pour le Mondial 2030.
Et de son côté, l'Angleterre, réduite à 10, s'en est pourtant sortie difficilement. 3-2 contre le Mexique à domicile. Suite des huitièmes de finale à suivre sur RMC dès 21h, Espagne-Portugal. Et puis États-Unis-Belgique à 2h du matin, ce sera avec l'attaquant américain Folarin Balogun. Sa suspension après un carton rouge a été levée. La FIFA a cédé aux caprices de Donald Trump. On vous raconte tout ça dans le journal de 8h.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome des Sables d'Olonne.
Départ 18h30, voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 2, Jim Dalouette. Son outsider, le numéro 9, Global Beauty.
C'était le journal de Victor Pourchet. Il est 7h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Ce matin, sur le WhatsApp de l'émission et sur l'application RMC, vous réagissez notamment à ce rapport sur les espaces No Kids.
Oui, la Commission nationale des droits de l'homme qui vient de remettre ce rapport à la haute commissaire en charge de l'enfance. Elle était sur RMC à 6h40 et vous réagissez nombreux sur ces espaces No Kids que le rapport suggère d'interdire. Romain, lui, nous écrit, non sans humour, si on interdit les enfants à certains endroits, on va interdire les personnes âgées le samedi matin dans les grandes surfaces. Je pense que si on faisait ce genre de proposition-là, ça choquerait énormément. J'ai Jay qui nous dit, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire une loi pour ça? C'est ma famille et moi, si on n'est pas les bienvenus quelque part, je vais dépenser mon argent ailleurs. Et c'est tout. Greg nous dit, c'est aux parents de savoir tenir leurs enfants, mais dans un restaurant, entendre des enfants crier, courir, c'est pénible. Je suis désolé. On n'est pas dans une cour de récréation, nous écrit Greg ce matin. Et puis Julien, sur le WhatsApp RMC, lui aussi. Certains veulent des espaces no kids. Eh bien, moi, je demande des espaces no vieux, genre le matin sur la route, quand tu pars au boulot, dans les commerces, le week-end, le jour où tu peux faire tes courses, etc., etc. On peut aller très loin avec la connerie de certains, nous dit Julien.
Voilà les messages que vous nous envoyez. Puis on va parler chaleur dans un instant. 39 degrés à Bordeaux, 38 à Montpellier, 37 à Toulouse et à Nantes. On va vivre une troisième canicule en 3 mois et nous ne sommes pas prêts. Voilà ce que vous nous dites, Delphine Bateau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée écologiste, vous êtes ancienne ministre de l'écologie, vous êtes aussi d'ailleurs candidate à l'élection présidentielle. On va parler clim notamment avec vous parce que vous saisissez la répression des fraudes contre Lidl que vous accusez de tromperie sur les prix des clim mis en vente la semaine dernière. Pourquoi ces promos vous dérangent? Je vous pose la question dans un instant. Et vous qui nous écoutez au 3216, appelez-nous pour nous dire justement s'il fallait oui ou non se ruer sur ces clims, si vous avez réussi à en acheter d'ailleurs, tiens, ou si au contraire vous estimez qu'il faut s'en passer. Le 32-16 vous est ouvert, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et priorité aux auditeurs parce que Benjamin nous appelle au 32-16 des Pyrénées-Orientales. Bonjour Benjamin.
Bonjour Apolline.
Benjamin, vous vouliez partager avec nous parce que vous venez de recevoir un message qui vous demande d'évacuer, c'est ça, à cause des incendies? Allô? Benjamin, est-ce que vous êtes en ligne avec nous?
Je suis là.
Vous êtes là. Benjamin, dites-nous ce qui s'est passé et dites-nous où est-ce que vous en êtes là.
Alors, moi je suis là, je pars de Perpignan maintenant, mais nous n'arrêtons pas de recevoir des messages d'alerte d'évacuation de la préfecture, donc le téléphone sonne malgré les modes d'avion.
Ouais.
Et moi je vous parle, je quitte Perpignan, un gros salut à tous ces pompiers, il y a des colonnes de pompiers partout là, notamment des sapeurs-pompiers de la Creuse,
ouais,
qui viennent nous aider. Des odeurs très âcres de fumée dans la gorge dès le matin, puisque même dans les maisons ça sent toute la nuit. J'ai une grande pensée aussi pour tous ces gens qui sont en mobil-home sur la côte, qui sont venus en vacances, puisque les logements sont pas très étanches au niveau des fumées de ça. C'est de l'enfer ici, mais tout le bas de terre, de Ille-sur-Tête jusqu'à Argelès-sur-Mer, est noyé dans les fumées. En fait, toute la montagne des Albères, on ne la voit plus, quoi. Elle est noyée sous les fumées.
Vous la voyez plus, c'est les fumées. Vous deviez aller où, là, normalement? Vous allez devoir changer...
Alors, non, moi, je m'en vais du coup travailler dans le Luberon aujourd'hui. J'ai des grandes craintes de quitter ma famille, puisque je dois traverser les Pyrénées-Orientales, l'Aude et le Gard.
L'autoroute à les 9 trois et, zones et où il y a des incendies ce matin.
Oui, c'est ça. Donc, c'est très angoissant. Voilà,
j'imagine. J'imagine, tenez-nous bien au courant. Merci en tout cas d'avoir appelé le 32-16, de nous avoir effectivement alerté. Et comme Benjamin, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 32-16. On sait qu'effectivement dans les Pyrénées-Orientales, c'était déjà 5500 personnes et 10 000 dans tout le secteur qui avait été évacués. Mais on l'entend aussi dans la voix de Benjamin, ces évacuations, elles se poursuivent. Il est 7h44, l'extrême chaleur, la canicule, les incendies évidemment. Et quelle réponse face à cela ? Bonjour Delphine Bateau.
Bonjour.
Vous êtes députée Génération Écologie, des Deux-Sèvres, vous êtes l'ancienne ministre de l'écologie et vous êtes d'ailleurs aussi candidate à l'élection présidentielle. Vous êtes en croisade contre Lidl, vous dénoncez des promos ou des fausses promos de Lidl, on va y revenir, mais je me suis demandé quand même pourquoi vous commencez pas par dire merci à Lidl.
Et pourquoi faudrait-il
leur dire merci ? Parce que la clim, ça doit rester un truc de riche ?
C'est pas du tout le propos. Est-ce que c'est parce qu'on est de catégorie modeste qu'on doit être humilié ? Qu'une enseigne a le droit d'organiser la bagarre, d'appeler à la bagarre dans ses supermarchés, dans ses commerces. Et est-ce qu'une enseigne a le droit d'organiser une arnaque, puisque le climatiseur qui a
vous vous dites conduit à ces incidents, précisément, 200 000 climatiseurs, il était vendu,
pardon, 30 euros plus cher qu'au mois de mai et au mois de juin. Donc, est présenté comme une opération de solde et de promotion, la vente plus chère d'un climatiseur, de 30 euros plus cher que ce qui était vendu
il
au mois de mai ou au mois de juin.
Il a été annoncé 179 euros par Lidl. Il était visiblement, disent-ils, eux, vendu avant 249 euros.
Non, mais il était à 149 euros au mois de mai et au mois de juin. Un modèle en tout point comparable, avec le même prix de référence, les mêmes caractéristiques techniques. Donc, c'est la définition même d'une arnaque.
Mais est-ce que le problème pour vous, c'est... Alors, évidemment, s'il y a totalement arnaque, vous avez d'ailleurs remonté, y compris les tweets et la communication de Lidl, dont vous estimez qu'au fond ils ont chauffé à blanc en réalité les consommateurs
pour appeler à la bagarre
avec des images notamment de Game of Thrones. Mais pardon Delphine Bateau, mais s'il y a des gens qui se sont rués dans les magasins, c'est qu'ils souffrent, c'est qu'ils ont besoin de clim.
Alors justement,
qu'est-ce que vous leur dites à eux?
Justement,
en fait,
il y a une limite morale à l'exploitation de la souffrance des Françaises et des Français face aux canicules.
Mais pardon,
à
répétition. L'exploitation de la souffrance des Français, c'est pas de pas leur avoir permis d'avoir la clim, de pas avoir demandé aux bailleurs sociaux, de pas avoir demandé aux propriétaires de mettre la clim dans les logements des plus modestes.
C'est justement parce que on ne roule pas sur l'or qu'on a le droit d'humilier sa clientèle, d'organiser des scènes de cohue et de bagarres dans les magasins et, encore une fois, d'appliquer des prix qui ne correspondent pas à la définition légale de ce qui est un solde. Donc les choses sont extrêmement claires. Ensuite, la situation, c'est quoi ? C'est que notre pays est en danger. Moi, je viens du département des Deux-Sèvres, qu'on est à sa troisième canicule depuis le mois de mai. La solution qui doit être organisée rapidement, c'est de permettre à chacune et à chacun d'accéder à un endroit rafraîchi. Et je veux saluer à ce titre, qui contraste d'ailleurs avec l'attitude de Lidl, la décision par exemple de la Fédération Technique du Commerce de France d'organiser dans tous les centres commerciaux, y compris si on ne consomme pas, des endroits où on peut se reposer, où on peut dormir et on peut avoir accès à la fraîcheur.
Mais vous avez bien vu, Delphine Bateau, que le problème c'est aussi qu'il n'y ait pas de climatisation dans les appartements. François Gémen, que vous avez longtemps considéré comme la référence. François Gémen, auteur du GIEC, il a déclaré ce week-end « La climatisation sauve des vies ». Il dit ne pas comprendre que l'on n'ait pas favorisé l'accès à la clim. Il dit il y aurait eu moins de morts dans les appartements s'ils avaient été davantage climatisés.
Mais en fait, on a pris un retard considérable. Pas seulement, il n'y a pas que la clim. On a pris du retard sur l'ombre, on a pris du retard sur l'isolation des logements. Il y a une responsabilité très lourde des gouvernements successifs dans le fait de ne pas avoir pris au sérieux le changement climatique. Maintenant, on est dans ce moment de bouleversement qui est un moment grave avec une situation, pardon de le dire, mais où notre pays est en danger. Il y a la canicule partout aujourd'hui, dans la mer, en montagne, dans les campagnes.
Delphine Bateau.
Pourquoi ?
Sur le constat, on est absolument à 250% d'accord.
En fait, la question, Apolline de Malherbe, la question de sécurité civile, la question de...
Sur la phrase de François Gémen. François Gémen, je ne vous cite pas n'importe qui, je vous cite François Gémen. Je vous ai vous-même entendu très régulièrement citer François Gémen. C'est une référence, c'est un auteur du GIEC. Il dit, la climatisation sauve des vies, il y a eu moins de morts, il y aurait eu moins de morts dans les appartements s'ils avaient été climatisés. Et vous me répondez, on a pris du recul, du retard.
Apolline de Malherbe, je vais vous prendre l'exemple du département des Deux-Sèvres, qui en en est à sa troisième vague de chaleur. Il n'est pas vrai que demain matin, tous les deux Sévriens vont être équipés de climatisation.
Mais il n'est pas vrai non
donc
plus qu'ils seront équipés demain de
point,
volets.
Excusez-moi,
ou de,
excusez-moi de finir. Mon point, c'est de dire que partout en France, aujourd'hui, on doit donner accès aux gens à des abris de fraîcheur. On doit arrêter on doit arrêter de renvoyer les Françaises et les Français au chacun pour soi, au système D et à la débrouillardise qui donne ce type de cohue. On doit organiser les choses collectivement.
Et c'est une question de sécurité.
C'est une question de sécurité civile. Je suis écologiste.
Est-ce que vous n'estimez
pas pour une écologie
indépendante. Lorsque François Gémen, ce même François Gémen, dit ce week-end, il faut le dire, des normes ont parfois empêché la climatisation des logements. Est-ce que vous ne vous dites
c'est
pas
pire que ça.
Est-ce que vous ne vous dites
c'est
pas que comme
ça.
En Espagne, il aurait fallu demander dans
c'est
ces cas-là aux bailleurs sociaux, aux propriétaires de permettre à leurs locataires et parfois les plus modestes d'avoir accès à la clim.
C'est pire que ça sur les normes puisque les normes aujourd'hui ne tiennent pas compte du confort d'été. Donc il y a même par exemple des écoles qui ont été récemment rénovées,
mais uniquement
qui se transforment en four l'été parce qu'elles ont été organisées pour faire des économies de chauffage l'hiver sans tenir aucun compte du confort d'été. Donc oui, bien sûr qu'il y a un problème grave sur les normes.
Qu'est-ce que vous répondez aussi, Delphine Matteau, à ceux qui se sont rués au Lidl, c'est-à-dire ceux qui souffrent et qui se disent et qui sont prêts à n'importe quoi pour réussir enfin.
Je leur dis qu'ils n'ont pas à être victimes de cette enseigne et du comportement de ce groupe qui a organisé la mise en scène d'une pénurie et d'une bagarre. Je comprends tout à fait parce qu'en fait, pour les gens, c'est une question vitale,
en fait.
D'accéder à un ventilateur ou à un climatiseur, c'est une question vitale. Et donc, on n'a pas le droit d'organiser cette cohue. On n'a pas le droit.
La DGCCRF, elle va ouvrir l'enquête?
Ben je l'espère, parce que c'est illégal de vendre 30 euros plus cher un climatiseur qui était vendu au mois de mai ou au mois de juin à un tarif inférieur.
En disant officiellement qu'il s'agit d'une promotion. Merci Delphine Bateau d'être venue ce matin. Députée donc Génération Écologie, vous êtes aussi candidate à l'élection présidentielle et vous avez donc saisi la DGCCRF sur ces fausses promos quand on vous écoute. Il est 7h51 et c'est lundi. Le lundi, c'est la droite et c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Demain, on saura si Marine Le Pen peut être candidate à l'élection présidentielle. Est-ce que ça change vraiment quelque chose pour vous, Louis ?
Ça change tout, chère Apolline. Demain, une poignée de magistrats va décider de l'avenir politique de la France. Si Marine Le Pen est éligible, c'est la prochaine présidente de la République.
Vous nous le dites dans un instant. Il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu, avec un nouveau titre de Beyoncé.
Dévoilé ce week-end, Morning Dew, c'est le premier inédit de la diva depuis deux ans, depuis son dernier album. As we sip champagne, watching purple rain, bodies insane, how could you complain, plus I know you love my personality. La chanson a été publiée samedi, un titre travaillé entre autres avec Pharrell Williams. C'est le coup d'envoi en fait d'un compte à rebours. 60 jours avant le 4 septembre, le jour des 45 ans de Beyoncé, mais aussi le jour où sera réédité son album B-Day, dont vous vous souvenez peut-être. Alors pour accompagner ce nouveau titre, Beyoncé a également dévoilé une vidéo en noir et blanc, montée à partir d'images d'archives, tournée en 2007, Morning View, donc, qui figurera sur la réédition de B-Day, qui paraîtra le 4 septembre à la rentrée.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
C'est lundi, et le lundi c'est la voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
La Cour d'appel de Paris rendra demain sa décision sur l'inéligibilité ou non de Marine Le Pen. Hier, Édouard Philippe a estimé que tout n'est pas perdu pour la droite. Pour vous, tout se joue en réalité demain, c'est lié ?
Demain, la campagne présidentielle commence. En quelques minutes, dans le prétoire d'une cour d'appel, une poignée, quelques magistrats, va faire basculer le destin politique de la France.
À ce point-là.
Deux scénarios. Premier scénario, Marine Le Pen est éligible. Dans ce cas, elle sera, française et français, la prochaine présidente de la République.
Ah, pour vous, il n'y a même pas de doute.
C'est ce que disent les sondages, c'est ce que dit l'usure du pays, c'est ce que dit la volonté de changement, c'est ce que dit la France. Deuxième scénario, elle est inéligible. Alors passons ce matin sur le scandale démocratique que représente l'idée de voir trois magistrats décider de la vie politique d'un pays de 68 millions d'habitants. Ça sera pour une autre chronique. Mais si c'est le cas, tout se rouvre. Tout éclate. tout devient possible.
Édouard Philippe, précisément, dit « tout n'est pas perdu pour la droite ». Donc,
il a raison, mais à une seule condition. Que la droite cesse de se disperser entre 15 candidats potentiels. 15 candidats, c'est-à-dire aucun candidat. Car dans un second tour, Bardella, Mélenchon, le pire d'ailleurs scénario possible pour la majorité du pays, la droite assisterait à son propre enterrement pour cette élection et pour toutes celles qui suivront.
Pourquoi est-ce que ce serait la fin de la droite ?
Bah parce que si Bardella gagne, la droite se ralliera à lui, il n'y en a aucun doute. Et si Mélenchon gagne, le RN deviendra la seule force d'opposition vraiment crédible, avalant toutes ses concurrentes. Dans les deux cas, la droite, pour cette élection, joue ici sa survie.
Alors comment s'assurer une place au second tour pour vous, la droite ?
Pour moi, il y a deux impératifs. Le premier est mécanique. Un seul candidat, un seul chef, c'est nécessaire. Le second est existentiel. Ce chef, le candidat de la droite, devra conduire l'une des plus grandes et l'une des plus belles élections présidentielles de l'histoire de la Ve République. Rien de moins ne suffira.
Mais alors, ça veut dire quoi, une grande campagne ? Vous trouvez que pour l'instant, c'est vraiment ce qui se dessine ?
Pas du tout. Écoutez, nous ne vivons pas des temps ordinaires. Ça, je pense que tous nos auditeurs sont d'accord. La droite républicaine doit renouer, je le pense, avec sa radicalité. Et je l'utilise dans le sens le plus noble du terme. Celle qui retourne aux racines. Elle doit s'imprégner d'une énergie et d'une soif sans précédent. Il faut que la droite fasse une campagne d'affamés. Pas une campagne de gestionnaire, pas une campagne de comptable, pas une campagne de bon élève. Elle doit cesser, cette droite, d'avoir peur de son ombre, cesser de sentir la naphtaline d'amphithéâtre de sociologie, censée d'endormir par son ringardisme, même ses plus ardents fidèles, cesser d'avoir peur des idées neuves et empoigner enfin son avenir avec le zèle du croisé.
Avec le zèle du croisé, je reconnais bien votre phrasé, Louis Sarkozy. Concrètement, ça ressemble à quoi une telle campagne ?
Écoutez, en toute modestie, je pense que ça ressemble à un combat idéologique. Incarné par un chef, nous l'avons dit, qui au fil de la campagne doit devenir incontestable, pas populaire ou pas que. Incontestable, ce n'est pas exactement la même chose. Un chef que les Français regarderont en se disant « lui a compris ». Lui, il ose. Lui, il mérite les clés. Avec tout cela, soyons clairs, la droite peut encore perdre. La politique n'est pas une science exacte, les Français font ce qu'ils veulent et Marine Le Pen, si elle est candidate, reste bien évidemment favorite. Mais sans ça, sans cette soif, la droite est certaine de perdre. Voilà pour moi l'équation. Et voilà pourquoi ce mardi 7 juillet, c'est une date charnière. Elle enclenche ou n'enclenche pas l'urgence politique de notre époque.
Il y en a un qui en est capable, la droite ?
Celui qui ose. Celui qui ose transformer.
C'est pas un nom, ça, Louis Sarkozy.
Celui qui ose transformer en profondeur et réduire drastiquement le poids de nos institutions. Celui qui ose la baisse radicale des impôts et la croissance qui va en découler. Celui qui ose mener le combat migratoire, mais aussi le combat civilisationnel. Celui qui ose, ma chère Apolline, la démocratie directe.
Vous me dites pas grand chose.
Le retour au peuple. Attends, si vous me laissez finir, peut-être que vous allez changer d'avis. Le retour au peuple, les référendums et la confiance rendue aux élus locaux. Celui qui ose le risque et l'initiative qui ont caractérisé toutes les grandes aventures humaines, qui retrouve cet élan foudroyant sur lequel aucune grande épopée n'est possible, qui assume enfin la rupture que réclament nos concitoyens. Vous me demandez qui peut donner à la droite sa chance. Bon, je vous réponds très clairement. Pas du tout un homme politique. Celui qui osera.
C'est celui qui osera. Bon, on verra si ça se dessine plus précisément. Merci beaucoup Louis Sarkozy, la voix de droite sur RMC. Demain, ce sera la voix de gauche. Il est 7h58, on se retrouve dans un instant. La météo et le journal, à la une du journal de 8h. Cédric Jubilard avoue le meurtre de sa femme. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Excellent lundi à tous. Il est 8h sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nous allons évidemment revenir dans le journal sur ce coup de théâtre ce matin. Les aveux de Cédric Jubilard qui reconnaît donc le meurtre de son épouse dans une lettre adressée à ses avocats 6 ans après le début de l'affaire. Nous serons dans les Pyrénées-Orientales en direct ce matin où le gros incendie qui fait rage depuis samedi n'est toujours pas fixé, dit le préfet, attisé par le vent et la troisième canicule qui s'installe sur le pays. Et nous serons aussi à la Coupe du Monde de football où Donald Trump se croit tout permis et parvient à faire annuler un carton rouge infligé aux Américains.
C'est le journal La Dépêche qui révèle donc ce matin les aveux de Cédric Jubilard.
Et c'est un coup de théâtre puisque Cédric Jubilard a toujours nié quelconque rôle dans la disparition de sa femme en 2020 à Cagnac-les-Mines, souvenez-vous, dans le Tarn. Il avait été condamné en fin d'année dernière, souvenez-vous, à 30 ans de réclusion criminelle. Et bien Marion Gauthier en direct ce matin pour RMC. Il est donc passé aux aveux dans une lettre adressée à ses avocats.
Oui, une lettre manuscrite, une feuille recto verso sur laquelle Cédric Jubilard raconte cette soirée du 15 au 16 décembre 2020 alors que Delphine envisage de refaire sa vie avec un autre homme. Frédéric Abella est journaliste à La Dépêche. C'est lui qui a accès aux documents.
C'est une dispute, hein. Cette période, c'est un couple, voilà, il y a de l'électricité dans l'air, la tension est extrême et c'est une énième dispute qui cette fois tourne très mal. Voilà, il donne des éléments sur la chronologie de la soirée, sur ce qu'il a fait du corps, sur comment il l'a transporté, sur où est-ce qu'il l'a déposé et il se tient à la disposition de la justice.
Et l'accusé réserve les détails de la disparition à la justice, déclare son avocat à la Dépêche du Midi, maître Pierre de Buisson, qui dit le soulagement de son client, son besoin de parler. Après 5 ans de réclusion à l'isolement, 5 ans de dénégation, Cédric Jubilard veut donner une sépulture à la mère de ses 2 enfants, ajoute son avocat.
Alors Cédric Jubilard devait être jugé en appel au mois de septembre, à la fin de l'été donc, mais évidemment ses aveux changent complètement la donne.
Oui, la présidente de la cour d'assises de la Haute-Garonne pourrait ouvrir un supplément d'informations, ce qui implique de réentendre Cédric Jubilard, consigner ses aveux dans un procès-verbal, mener de nouvelles recherches pour trouver la dépouille et l'analyser. Tout cela devrait prendre du temps, alors que le procès en appel est prévu le 21 septembre et pour 4 semaines, un délai difficilement tenable.
Marion Gauthier en direct ce matin pour RMC. Ça recommence ce matin. Il y a donc 16 départements, vous l'avez entendu, en vigilance orange pour la chaleur. 9 de l'ouest qui s'ajoutent aux 7 qu'il était déjà dans le sud-est. Géraldine de Maurice, c'est donc la 3e canicule en seulement 3 mois. Et alors celle-ci, on ne sait pas combien de temps elle va durer et surtout quelle ampleur elle va avoir.
Pour la durée, pour l'instant, on n'en voit absolument pas le bout. A priori, ce sera quand même un épisode moins intense que celui du mois de juin, mais qui était complètement historique. Ça va être un épisode durable. Ce qu'on sait, c'est que dans un premier temps, les températures vont continuer d'augmenter. Demain, les très fortes chaleurs épargneront seulement les bords de Manche. Et encore, il fera quand même 30 degrés. Les 40 degrés seront fréquents entre la Nouvelle-Aquitaine et le Golfe du Lion. Les nuits vont devenir de plus en plus difficiles. On devrait voir une évolution de la vigilance orange en direction des régions du centre et du bassin parisien. À partir de mercredi, les températures devraient assez peu évoluer. On va rester sur un plateau haut. Et ensuite, les modèles ne sont pas tous d'accord. On pourrait avoir une extension de la chaleur vers le nord ou un retour d'un air plus océanique. Ce qui est particulièrement difficile, en tout cas pour les organismes, c'est la répétition de ces épisodes de chaleur extrême sans réelle pause. Et c'est clairement une manifestation très concrète du changement climatique.
Alors la chaleur, le vent et la sécheresse qui attise évidemment les incendies, avec un très gros feu depuis samedi soir donc dans les Pyrénées-Orientales, dans le secteur de Trévillac et d'Ille-sur-Tête, c'est à l'ouest de Perpignan, où les flammes ont parcouru 4600 hectares de végétation. Le feu n'est toujours pas fixé ce matin, nous dit le préfet, et 10 000 habitants du secteur ont dû être évacués là ces dernières heures dans les communes aux alentours, comme à Thuire, où vous êtes en direct ce matin pour RMC, Rachel Sadodine, avec des habitants donc qui ont dû quitter leur maison.
Oui, l'air pique encore la gorge ce matin ici, devant l'école maternelle où des familles entières ont passé la nuit sur des lits de camp. Comme Nathalie, mère de 3 enfants, son petit dernier n'a que 17 mois.
Ben, nuit blanche, très peu dormi cette nuit.
Et vous avez réussi à prendre quelques affaires en partant ?
Non, rien. On est parti en urgence. On n'a rien pu prendre, même pas les affaires du petit, rien.
Et votre maison ?
Mais elle est cramée. Je pense, parce que tout le village est cramé normalement. On a été encerclés par les fumées, par les flammes, et ça a tout pris rapidement.
Les cernes creusées, les yeux encore rougis par les fumées de la veille. Nathalie n'est pas seule. Au total, une centaine de personnes ont trouvé refuge ici à Thuire, dans l'attente ce matin d'être fixées sur leur sort de leur maison. Selon le dernier bilan des sapeurs-pompiers, une 50aine d'habitations a été détruite par les flammes.
Rachel Sadodine, en direct donc des Pyrénées-Orientales ce matin pour RMC. Ce premier gros feu de l'été va chambouler la 3e étape du Tour de France, qui est de retour en France aujourd'hui, avec après le grand départ à Barcelone, et qui va passer par les Pyrénées-Orientales. Et alors en fait, Maria Zé, vous êtes sur le Tour de France pour RMC en direct avec nous ce matin. L'étape du jour est maintenue, mais il n'y aura pas de public sur toute la partie française de la course.
Oui, tout à fait. Pour les 44 derniers kilomètres de course, la préfecture et le Tour de France demandent au public de ne pas venir sur le parcours. Impossible de bloquer toute la route, donc les autorités appellent au civisme des spectateurs. Objectif, éviter de devoir mobiliser les secours alors que ces derniers sont déjà débordés par l'incendie. Pour encourager les spectateurs à rester chez eux, la caravane ne passera pas sur la partie française. Des amendes pourront même être distribuées dans l'école et la zone d'arrivée en cas de non-respect des règles. Côté sportif, les véhicules de course et les équipes ont été informés tard hier soir que l'itinéraire pour aller aux Angles en dehors de la course avait été changé. Il faudra rejoindre l'arrivée en passant au maximum par l'Espagne. Pour les coureurs, le maintien de l'étape est un soulagement, même si l'on regrette que l'arrivée de la Grande Boucle en France se fasse sans public.
Maria Azé, qu'on retrouvera donc en direct cet après-midi sur RMC depuis la moto RMC pour suivre cette troisième étape du Tour de France. 196 km entre Granollers et Lézang, première arrivée au sommet. C'est déjà la montagne sur le Tour au lendemain de la victoire du Mexicain Isaac Del Toro, victoire qui a été offerte sur un plateau par son coéquipier, le Slovène Tadej Pogacar. Mais le Mexique qui peut pas gagner à tous les coups. Hein.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Je vous dis ça parce que c'est l'Angleterre qui s'est qualifiée pour les quarts de finale cette nuit, 3-2 contre le Mexique dans un match plein de rebondissements avec un doublé par exemple en 2 minutes du milieu de terrain anglais Jude Bellingham. Un peu plus tôt, c'est la Norvège qui a sorti le Brésil 2-1 avec un doublé cette fois de Erling Haaland. Et les larmes sur le visage de Neymar, l'image de la nuit, buteur Neymar pour l'honneur en toute fin de match. Cette Coupe du Monde qui est donc, je vous le disais, agitée par cette polémique. Avant le match la nuit prochaine entre les États-Unis et la Belgique, Nicolas Pelletier pour RMC, la FIFA a décidé d'annuler la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun qui avait reçu un carton rouge pourtant en dernier match, et c'est Donald Trump qui a fait pression.
Oui, et selon de nombreux médias américains, Donald Trump a directement contacté le patron de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander le réexamen de la suspension du joueur américain Folarin Balogun. Juste après cet appel, l'instance a annoncé la levée de la suspension du joueur, une décision que ne comprend pas le sélectionneur belge Rudy Garcia, qui doit affronter les États-Unis ce soir.
Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. Voilà.
Merci à la FIFA d'avoir réparé une grande injustice, a directement commenté Donald Trump sur son réseau social. Aucune explication n'a accompagné la décision qui pourrait s'apparenter à un acte d'ingérence de la part des États-Unis. Stupéfaite par cette décision, la Fédération belge se réserve le droit de saisir le tribunal arbitral du sport.
Et c'est à 2h du matin que les États-Unis joueront contre la Belgique. On verra si ce pataquès a une influence sur le terrain. Et avant ça, il y aura un alléchant Portugal-Espagne à 21h sur RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet. Un mot pour vous dire qu'il ne vous reste que 5 jours pour vous inscrire pour la 17e édition des trophées PME RMC BFM pour l'édition 2026. Vous êtes entrepreneur, vous dirigez une petite ou moyenne entreprise. Eh bien, c'est le moment de vous inscrire, de participer et de gagner peut-être 100 000 euros d'espace publicitaire sur le groupe RMC. Il y a des entreprises extraordinaires qui ont véritablement pris leur envol grâce à notre concours des trophées PME, To Go, Blablacar, C'est qui le patron? Eh bien, tout cela, ils ont joué le jeu et ils ont été encouragés et portés par notre concours. Donc, vous vous inscrivez dès maintenant, vous inscrivez votre PME sur trophée-pme-rmc-bfm.fr, trophée-pme-rmc-bfm.fr, date limite ce vendredi, et bonne chance à tous les entrepreneurs. Il est 8h09 sur RMC et RMC Story. On parle économie, justement.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Apolline.
Comme à chaque campagne présidentielle, la réduction du nombre de fonctionnaires revient sur le tapis.
Oui, c'est le MEDEF d'abord qui, dans son plan d'économie de 100 milliards d'euros pour les finances publiques, veut réduire les effectifs du secteur public. C'est Gabriel Attal qui promet 100 000 fonctionnaires de moins. Édouard Philippe veut lui aussi réduire les effectifs. Et tous les derniers présidents de la République, sauf le socialiste François Hollande, avait promis cette cure d'amaigrissement, sauf que ça n'a jamais marché. Il y a aujourd'hui 5,8 millions d'agents publics et leur nombre ne cesse de croître. 25% de plus qu'en 97, un peu moins de 1% d'augmentation par an en moyenne, inexorablement. Alors, pour quelle raison? Eh bien, parce que les besoins de la population ont augmenté, hein, en matière de santé, en matière de transport. Il faut rappeler qu'on se déplace 5 fois plus aujourd'hui qu'il y a 50 ans. On a créé des nouvelles missions sans jamais supprimer les anciennes, la décentralisation a créé plus de couches de décision et pas moins. Les collectivités locales, par exemple, sont celles qui ont le plus embauché. Et puis, dans tous les secteurs, comme la santé, la police ou l'éducation, il y a trop de fonctionnaires dans les bureaux et pas assez sur le terrain, sachant que le statut de la fonction publique freine évidemment tous ces ajustements.
Donc, on n'arrivera jamais à réduire le nombre de fonctionnaires?
Alors, jamais si on en fait un objectif politique de cette réduction. D'abord parce que le gouvernement se heurtera à la résistance des syndicats et aussi à l'incompréhension des Français face à l'insuffisance des juges, des policiers, des infirmières. Donc la priorité, ce serait de commencer par redéfinir ce que doit être le service public du 21e siècle. Qu'est-ce que l'État doit faire en plus ou en moins? C'est un choix de société qu'on fait plein de pays. Il y a des pays où on veut que des missions soient assurées par le service public, comme en Scandinavie. Des pays où on veut que ce soit des entreprises privées. Comment est-ce qu'on intègre les nouvelles technologies? Comment on remet des fonctionnaires sur le terrain, sachant qu'il y a une énorme marge de manœuvre puisque un fonctionnaire sur trois va partir à la retraite d'ici 2035. Donc la réforme de l'État, c'est possible. Moins de fonctionnaires, pourquoi pas, mais ça doit être une conséquence plutôt qu'un objectif qui ne dit rien à personne.
Et puis les chiffres du jour, on en est où? Ça monte ou ça descend?
Alors sur les carburants, c'est d'une stabilité d'une semaine sur ça l'autre. Non, ça ne descend plus. On est à 1,89 le litre sur le gazole et le samplon 95. Le pétrole ne bouge pas. 71 $ le baril, on est sur les niveaux qu'on connaissait avant la guerre, toujours. Par contre, le gaz, lui, remonte. Il est passé de 40 à 44 euros le mégawattheure au cours des 10 derniers jours.
C'est comme si tout était gelé. Donc, merci Emmanuel. Il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h12 sur RMC. Restez bien avec nous dans un instant. Le meilleur d'Arnaud de Manche. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le patron des magasins Leclerc, Michel-Édouard Leclerc. Face à la nouvelle canicule, les grandes surfaces sont-elles prêtes? Est-ce qu'il y a encore du stock de clim, du stock de ventilateurs? Est-ce qu'il y a des pénuries? Et puis, est-ce que ces vagues de chaleur à répétition vont avoir des conséquences sur notre pouvoir d'achat et notamment sur le prix des fruits, des légumes, de l'élevage? Réponse donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. Juste après, il y aura le choix de la rédaction. Mathieu.
C'est une exclusivité RMC ce matin. Le nombre de défaillances d'entreprises en hausse de 5% au premier semestre de l'année. Nous sommes au tribunal de commerce d'Avignon avec des chefs d'entreprise en difficulté. Et puis les dernières infos de la Coupe du Monde, bien sûr. C'est avec Virginie Fulpin. Rendez-vous à 8h50.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Il est 8h16 sur RMC. C'est l'heure de retrouver Arnaud de Manche. Parce que même pendant ses vacances, vous retrouvez l'humoriste d'RMC. On vous a gardé le meilleur, Arnaud, qui revenait d'un ce matin, vous allez l'entendre, sur les meilleures excuses quand on rate un rendez-vous.
Apolline, on se plaint souvent de nos politiques, mais ça va encore, je trouve, parce qu'aux États-Unis, le chef de l'Agence fédérale de gestion des urgences, en gros, c'est les super-pompiers américains, il a sorti une pépite cette semaine. Le gars affirme avoir été victime de téléportation involontaire.
Mais non.
Oui, le chef des méga-pompiers américains, pas n'importe qui. Téléportation involontaire, et pas n'importe où. Il dit avoir été téléporté à son insu dans un magasin de gaufres.
Mais c'est vrai.
Non, mais c'est vrai. Ah, Manu Le Chypre me disait, moi, ça m'arrive tout le temps.
Hier, c'est pas involontaire.
C'est pas involontaire. Hier, j'étais à la salle de sport, à rêvasser à la salle adverse qui m'attendait, et je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé chez un marchand de gaufres. J'avais une double liégeoise tiède, chocolat noir suppléant chantilly, amande grillée dans la main.
Bah oui.
J'ai rien pu faire.
Bah bien sûr.
Non, mais ça peut faire jurisprudence, cette histoire de téléportation involontaire. Vous savez, les cambrioleurs. En fait, j'ai été téléporté dans la salle des coffres, je sais pas comment c'est arrivé. Jack Lang. Mais enfin, mais qu'est-ce que je fais dans ce jacuzzi plein de mousse avec ces jeunes et faibles et Woody Allen? Écoutez, ça se plaide.
Ça se plaît. Le porte-avions Charles de Gaulle a été localisé donc en temps réel grâce au profil Strava d'un officier de la marine qui faisait son jogging sur le pont.
Oui, Strava, tout le monde connaît.
Ça y est, on l'a.
Pour... Bon, moi, je suis connecté d'ailleurs au Strava d'Emmanuel Le Chypre. Je peux suivre son parcours en temps réel. Hier, alors, j'ai vu, il a fait BFM Business, cantine, cantine, BFM TV, BFM TV, cantine, cantine, l'autre cantine, parce qu'on en a deux ici, cantine, BFM Business, business, BFM TV, cantine.
Et bah ça fait bien 10 000 pas tout ça.
Bah, oui.
Mais d'où,
pas
d'où
et 10 000 calories aussi.
En tout cas, ça m'a surpris que ce soit un scandale. C'est à cause de ça qu'ils ont localisé un porte-avions. Oui. Je ne savais même pas que c'était censé être discret, un porte-avions. Moi, je pensais que c'était là pour impressionner, que ça se voyait depuis la Lune.
Oui.
En tout cas, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un coureur Strava dans l'avion de la Malaysia Line Airlines. On serait moins emmerdé.
Oui.
Ceci dit, il a dû être content, le gars. Parce qu'il fait du sport, c'est pour le montrer. Puis d'un seul coup, il s'aperçoit que sur son appli, c'est l'emballement. Tout Internet le regarde. Oh, c'est ouf! Putain, les gars, il y a Vladimir Poutine, il a commencé à me suivre. Quoi. C'est un président, il suit mes perfs. J'ai un like de Xi Jinping. Putain, je dois courir vraiment super bien. Et alors, il a commencé à faire des vidéos. Salut la commu! Alors, merci d'être là, les fololos. Vous êtes nombreux à me suivre du monde entier. Je vois, il y a des gens en Iran, en Syrie, au Liban, en Amérique. Merci de votre soutien. Alors, aujourd'hui, je vais tenter une petite course, un petit défi. Ça va être difficile à cause du vent parce que vous voyez, je suis à quoi? Au large de Ispahan, à 4-5 kilomètres, juste avant le détroit d'Hormuz. Ah merde, on a été repéré.
Patrick Bruel, visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle.
Dont Nicolas Hulot, l'abbé Pierre, Patrick Bruel, le classement des Français préférés des Français. On va quand même le regarder différemment. C'est pas le JDD qui devrait publier ça, c'est le nouveau détective.
C'est ça.
J'espère que Jean-Jacques Goldman ne va pas tomber. Par contre, Thomas Pesquet, ça me déplairait pas.
Ah
je
oui.
prends.
Ah ouais, oui, non, vous
mais
prenez.
C'est pas contre lui, mais il est tellement parfait, ce gars-là. Ouais. C'est insupportable, lui. On va bien trouver une martienne à qui il a tripoté les trois seins qu'elle a dans le dos. Il va nous dire, ah, c'était juste un slow, parce qu'il a réponse à tout, en plus. Il est intelligent.
C'est dingue.
En tout cas, on n'écoutera plus jamais les chansons de Patrick Bruel comme avant. Alors, regarde un peu. Bah non, monsieur, on va pas regarder ça. Remettez votre pantalon. Rendez-vous, place des grands hommes. Non.
Oh non.
En tout cas, vous voyez, c'est encore une star des années 90 qui vient de nous quitter. C'est le décès. Adieu, Patrick. Funeste destinée. Monde cruel. Iras-tu jusqu'à nous prendre Ménélik, Willy Denzel, Alliance ethnique, Nadia ou Alain Duhamel? Non.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Arnaud Demange, que l'on retrouve à tout moment en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr. Il est 8h20 sur RMC et c'est le moment de faire gagner Charles. Bonjour Charles.
Bonjour.
Charles, mais quel bonheur, vous avez gagné le week-end, les vacances Bellambra. Comment ça va alors?
Mais écoutez, très bien, c'est une belle récompense parce que ça fait pratiquement 20 ans jour pour jour que j'écoute RMC.
Oh.
Donc il faut que je fasse un beau cadeau aujourd'hui et en plus avec un super soleil, donc c'est une très très belle nouvelle.
Eh ben ça fait très 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 plaisir de récompenser votre fidélité, Charles. Vous êtes à Oloron-Sainte-Marie, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Tout à fait, et donc vous allez pouvoir partir en vacances, vous le savez, hein, vous avez remporté les vacances à la mer ou à la montagne, vous avez une idée de ce qui vous ferait plaisir?
Oh bah avec le climat en ce moment, la mer, parce que la montagne, moi je l'ai quasiment à 40 km, donc je prends la mer pour changer un petit peu.
Voilà, on va changer un petit peu. Donc Charles, écoutez, on vous envoie en vacances dans un des séjours Bellambra, dans un des clubs et hôtels Bellambra. Vous pourrez choisir parmi 45 destinations. On est très 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 heureux de vous les offrir. Charles, bon, vive RMC, vive les vacances. Et on est très très heureux pour vous. Et vive Charles, vive les Charles, exactement. Il est 8h21 sur RMC, on vous en offrira d'ailleurs toute la semaine, hein, des séjours Bellambra. Dans un instant, c'est le face-à-face sur RMC et BFM TV. Mon invité, c'est Michel-Édouard Leclerc. On va revenir, tiens, vous avez peut-être entendu à 7h40, je recevais Delphine Bateau, sur la question des grandes promos, des promos Lidl sur la clim. Ça avait provoqué une véritable cohue. Qu'en pense Michel-Édouard Leclerc? Et puis surtout, est-ce qu'il a du stock, lui? On y revient dans un instant sur RMC et BFM TV. Puis juste après, il y aura le choix de la rédaction avec Élise, mais pour l'heure, il est 8h22.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
Et un coup de théâtre, Cédric Jubilar qui passe aux aveux et reconnaît le meurtre de son épouse Delphine Jubilar il y a 6 ans dans le Tarn. L'information est révélée ce matin par le journal La Dépêche. Cédric Jubilar l'a écrit dans une lettre adressée à ses avocats, lui qui avait toujours nié toute implication jusque-là dans la disparition de sa femme. Le feu n'est toujours pas fixé ce matin dans les Pyrénées-Orientales. 4600 hectares de végétation parcourus par les flammes depuis samedi soir à l'ouest de Perpignan. 10 000 habitants évacués dans les communes aux alentours avec une incidence sur la troisième étape du Tour de France aujourd'hui, les 196 km entre Granollers et Les Angles. Vous savez que le peloton va quitter l'Espagne pour revenir en France, première étape de montagne. Mais toute la partie française et les deux dernières ascensions, eh bien, se feront sans public, sans caravane publicitaire en raison de l'incendie dans le secteur. Pas un seul pompier mobilisé sur le Tour de France, assure le préfet de ce département. Les résultats de la nuit à la Coupe du Monde de football, c'est la qualification de l'Angleterre 3-2 contre le Mexique, doublé de Bellingham en 2 minutes, et la qualification de la Norvège 2-1 contre le Brésil, doublé de Haaland, un pénalty mais surtout des larmes pour Neymar. Le prochain huitième de finale sera ce soir à 21h, on verra ça sur RMC, l'Espagne contre le Portugal. Enfin la météo, cette nouvelle semaine de canicule là qui commence avec 16 départements en vigilance orange, 9 près de l'Atlantique en plus des 7 près de la Méditerranée qu'il était déjà. Et les températures qui vont grimper encore et toujours. 30 cet après-midi à Nice, 32 à Nancy, 34 à Lyon, 35 à Paris, 37 à Marseille, Perpignan, Montpellier, Toulouse, Biarritz aussi. Il fera jusqu'à 38 à Bordeaux.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, mon invité, c'est Michel-Édouard Leclerc. On va parler prix, évidemment. D'abord, prix de la clim, prix des ventilateurs. Est-ce qu'il y aura des pénuries et des ruptures de stock alors qu'une nouvelle vague de chaleur arrive? Et puis, prix des fruits et légumes, prix de l'élevage, les conséquences de la chaleur sur nos agriculteurs et donc forcément ben, dans les rayons. Réponse dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc.
Bonjour Apolline.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. Alors il y a de très nombreuses questions à vous poser, notamment sur les conséquences de la canicule sur les prix, sur la hausse potentielle des prix, sur l'agriculture. Mais d'abord, est-ce que vous avez du stock? Est-ce que les Français continuent à venir dans vos magasins pour demander des clims, des ventilateurs, de quoi se rafraîchir?
Non, moins maintenant. Je pense que la plupart des personnes sont équipées. Faut pas oublier que les écoles sont fermées, que beaucoup de gens sont déjà partis en vacances. Je vous arrive en courant de ma Bretagne, où finalement il fait bon. Une petite canicule, ça nous
fait
du bien.
C'est le moment de faire votre pub.
Oui, l'Aune, c'est pas l'eau reste froide, mais c'est the place to be.
Ok.
Non, c'est plutôt chez les agriculteurs qu'il y a des problèmes. Parce qu'ils en parlent peu, parce que pudiquement c'est pas facile d'en parler, mais il y a beaucoup de mortalité dans les élevages de volailles notamment.
On va y venir sur les ouais, sur les élevages, mais c'est vrai que on a vu ces scènes, vous les avez vues ouais, comme nous, ces scènes où il y a des Français qui se sont rués, notamment dans les magasins Lidl qui avaient annoncé une promo. Je recevais ce matin sur RMC Delphine Batho, l'ancienne ministre ouais, de l'écologie, qui a décidé carrément de saisir la DGCCRF contre Lidl, estimant que c'était une fausse promo, que c'était en fait qu'ils annonçaient faire une promo sur les clims qui en réalité étaient vendus encore moins cher un peu plus tôt. D'abord sur le fond, le fait que les gens se ruent sur les clims, c'est la faute de Lidl? C'est Lidl qui a organisé ça?
Non, je pense que je pense que peut-être ils ont provoqué cette ils étaient pas chers hein, c'est clair, mais ils arrivaient un peu après l'équipement général. Il y a beaucoup de gens qui venaient acheter pour revendre aussi.
Ça a été le cas, hein, visiblement, il y en a qui se sont retrouvés de
on a souvent des mouvements très vite en revente. C'est les mouvements du dernier coup, quoi. Et donc, je pense pas que Lidl ait déconné. Je pense que tout simplement, on entend aussi dans les médias qu'il va encore y avoir une canicule encore pendant 10 jours. En fait, personne n'en sait trop rien. Mais
on,
tout le monde
a déjà une vigilance orange hein, sur 17 départements aujourd'hui.
Je vous rappelle hein, quand même que les écoles sont fermées.
Êtes moins inquiet. Vous sens moins inquiet. Mais cela dit, Michel-Édouard Leclerc, je reste sur cette histoire de Lidl. 200 000 climatiseurs qui ont été vendus donc à moins de 200 euros et des scènes, effectivement, de ruées sur ces clims. Qu'est-ce que ça dit de la consommation aujourd'hui?
Ça dit plutôt de l'anxiété, le fait de pas avoir, de pas être prêt. Et d'ailleurs, ce que ressentent les consommateurs, il faut en tirer les conclusions pour nous, chefs d'entreprise, entrepreneurs. C'est très facile de faire le procès à l'État de pas avoir prévu. Enfin, bon, l'État n'est pas maître de la météo. Mais même nous, entrepreneurs, ça veut dire que Jean Covici, il a quand même raison. Tout a déjà été dit. On va avoir ça tous les 2 ou 3 ans, alternant avec beaucoup de pluie. Donc, il faut aujourd'hui qu'on adapte nos entreprises, notre offre.
C'est le cas chez Leclerc.
Ouais. C'est déjà une conviction personnelle. Moi, je suis très.
Je me souviens que vous aviez annoncé ici la fin des tickets,
prospectus, la suppression des sacs plastiques. Ça a été notre combat. Je pense que Jean Covici le dit quelquefois de manière, vous le recevez souvent de manière un peu professorale, mais je crois que là, tout le monde comprend que quand ça arrive quoi. Et donc c'est trop tard. Donc nous, on va investir près de 2,3 milliards d'ici 2030. Dans la lutte anti-gaspi, dans des nouvelles machines de réfrigération, dans la géothermie, dans la pose de panneaux solaires. On veut devenir autonome sur le plan, ou quasi autonome sur le plan de la production d'électricité, faire une électricité propre. On va lancer la bataille. Là, on lance la bataille à partir de cette semaine de l'électricité la moins chère pour les recharges électriques. On croit à l'électrique. On croit aussi aux alternatives. Je vais vous quitter juste après pour aller dans une grande coopérative de l'Est signer un contrat éthanol pour faire du E85, pour rajouter aussi de l'alcool à partir de l'agriculture décarbonée pour mettre dans le E10 et le E5 là. Et donc vous voyez c'est on part quoi, donc, tout azimut là-dessus. Et ça c'est à la fois
il y a une responsabilité
des entreprises. Nous avons un bilan carbone qui est de l'ordre de 70 millions de tonnes d'émissions carbone. Il faut diminuer de moitié ces émissions de carbone d'ici 2035. Alors pour que les gens pour que le public ce soit aussi un critère de choix d'acheter des produits qui sont pas trop carbonés, qui n'émettent pas trop de carbone, on l'affiche partout, on l'affiche sur nos textiles aujourd'hui à marque de distributeur avec toutes les conditions de production d'environnement, on affiche sur toutes les marques de distributeurs, marque repère, enfin pour nous, toutes les marques de distributeurs, je vais pas faire de la publicité. Et puis c'est un même sur les voyages, vous voyez, on est devenu un gros voyagiste français. Vous allez pouvoir calculer l'émission de carbone de votre voyage en allant dans votre hôtel, dans vos déplacements. Alors au début c'est aride, mais ça va permettre d'étalonner le suivi de la promesse.
Et vous pensez qu'ensuite les Français seront responsables et calculeront et se diront, parce que vous citiez Jancovici, mais Jean-Marc Jancovici, lui, il va jusqu'à dire qu'il faut renoncer à l'avion, ou alors se dire, on fait, je sais pas, 4 voyages en avion par an, ou par vie même.
Ça, c'est son choix personnel. Moi,
c'est ce qu'il espère pour l'humanité.
Ouais, moi j'ai des collaborateurs qui m'empêchent de louer des avions, qui me tiennent mon bilan carbone. Je vais aller sur le Tour de France, je peux vous dire que d'abord Stellantis nous a prêté des voitures électriques. Dans ma propre vie, même à 74 ans, je vais essayer de me mettre comme un adolescent d'aujourd'hui qui va vivre demain une vie décarbonée.
Donc s'adapter. Ouais. Je vous pose aussi la question des prix, parce que si j'en reviens toujours à cette fameuse scène de cohue autour des clims pas chers de Lidl, vous vous présentez régulièrement, Michel-Édouard Leclerc, comme l'homme du pouvoir d'achat des Français. Est-ce que ce que l'on a vu là est aussi le symptôme du fait que ces canicules ont révélé à nouveau des vraies inégalités des Français et que il y a des choses qui restent des produits qui pendant longtemps ont été des produits qu'on a presque empêcher les plus modestes d'obtenir.
Oui, mais c'est quand même, vous le voyez bien, quand même, dans la vie quotidienne, il y a des gens qui rament, il y a plus d'un million de Français, et ça ramène.
En fait, je trouve frappant le décalage entre ceux qui m'appellent, notamment au 32-16 sur RMC, pour dire que c'est vital pour eux, et donc ils se jettent sur, effectivement, la clim, et puis les politiques qui continuent à dire, comme le maire de Paris hier, climatiser son appartement, c'est réchauffer celui de son voisin. On vous a pas empêché, vous, de mettre la clim dans des énormes espaces de supermarchés. Ouais. Pourquoi on empêcherait les particuliers?
C'est le problème du décalage. Sans vouloir faire du populisme, on dirait qu'il y a des politiques qui font pas leurs courses ou qui vivent pas comme les conditions des gens. J'exagère parce qu'il y a des belles personnalités, c'est pas le sujet. Mais vous voyez, par exemple, là, on a
votre confrère d'ailleurs, Thierry Cotillard, dit les politiques sont aujourd'hui complètement déconnectés.
Ben oui, et Dominique Schelcher dit ça aussi de Coopérative U. J'ai réussi à dire Coopérative U et pas Système U. Vous voyez, par exemple, le prix des carburants, là, Total ne fait plus son plafond. On lui a mis 12 centimes d'écart là. Ben, les gens se précipitent. Ils viennent chercher à 1 euro près le carburant moins cher. Là, aujourd'hui, on a des stations qui sont en train de passer en dessous de la barre des 1,80. Ça descend pas assez vite. Mais
pourquoi ça bloque?
Vu d'un homme politique, vu du Parlement, ils comprennent pas. On a eu une commission d'enquête parlementaire délirante, infantile, en fait, contre les gens qui vendaient moins cher. Mais regardez le succès de l'opération de Macron pour les. C'est fini la fac, là. Mais les déjeuners à 1 franc, à 1 euro. Dans les crous, dans les restaurants. Ils se rendent pas compte qu'il y a tout un public dont le salaire médian est de 2000 euros par mois, qui en ont marre des grands discours sur les retraites ou sur qu'ils toucheront pas, ou sur la gestion des finances publiques sur lesquelles ils n'ont pas de prise. Et donc, c'est au sous le sous qu'il faut leur répondre.
Justement, dans les rayons, d'abord à la pompe, je vous repose quand même la question, pourquoi ça bloque? C'est-à-dire que là, on a quand même l'impression que les prix stagnent depuis une bonne dizaine de jours.
Non, ça descend quand même, ça a reperdu 30 centimes par rapport au point haut du conflit. Il y a des bateaux qui passent d'Hormuz, il y a des chaînes de camions.
Est-ce qu'on peut espérer, avant la fin de l'été, retrouver les prix d'avant la guerre?
Je ne me risque plus à faire la pitié. Un jour, vous m'avez dit la boule de cristal. Je n'ai pas encore cette qualité-là, mais ça descend quand même. Mais on est à la merci du moindre coup de gueule dans le détroit d'Hormuz, quoi. Et donc, comme ils n'ont pas l'air très rationnels ni très raisonnables, je préfère ne pas m'avancer. Mais aujourd'hui, par exemple, on est, je crois que c'est, voilà, j'ai là, on est à 1,82 sur le gasoil Leclerc, suivi de Système U et d'Auchan. Et sur le E10, vous voyez, Leclerc, on est à 1,80. Et derrière, il y a Intermarché, Cora. Et Total Énergie, c'est 12 centimes derrière, quoi.
Hein, donc, de plus,
Donc on a réussi à.
Dire que Total ne fait pas le boulot.
Ça veut dire que Total, il a fait le boulot pendant un mois, quoi. Ben il peut, il avait cagnotté quand même pendant 3 ans.
C'était bien le moins. Vous estimez.
C'était bien le moins qu'il pouvait faire. Oui.
La question du prix des fruits, des légumes, des produits, de la viande, de la volaille, eux aussi subissent évidemment les conséquences de l'extrême chaleur.
Pas encore. C'est-à-dire que c'est probablement à venir. Comme je vous le disais tout à l'heure. une semaine de chaleur dans l'agriculture française, on sait tenir dans la vigne et tout ça. C'est pour le après. Si ça dure trop longtemps, évidemment, il y aura des problèmes. Alors, il y a des problèmes de tenue de qualité de fruits, notamment les fruits rouges, quand il y a des chaleurs comme ça. Ça mûrit pas, hein, ça pourrit. Donc, il y a tous les professionnels sont sur la chaîne de froid. Donc, ça veut dire qu'il y a des coûts d'énergie, il y a des coûts de transport, par exemple pour la collecte de lait. Alors j'ai lu mon Ouest France dans le train hier soir, ils ont énormément de problèmes. Les vaches aussi ont des rendements de laitiers moindres. Donc effectivement, il peut y avoir soit de l'inflation, soit des ruptures dans les.
Vous n'en avez pas pour l'instant.
Pour le moment, non. Faut pas crier au loup. Pour le moment, c'est des problèmes qui sont à venir. Mais Par contre, je voudrais insister là-dessus vis-à-vis de la canicule. On n'est pas égaux, et vis-à-vis de la crise de l'énergie, on n'est pas égaux en Europe. Hein, vous entendez pas trop les pays de l'Europe du Nord qui, eux, vont chercher du pétrole en mer du Nord avec des dériques, avec des... Et donc, moi, je crois très important, aujourd'hui, la loi Egalim, la loi qui protège, qui m'empêche de négocier, qui empêche les distributeurs de négocier la matière première agricole, je voudrais aujourd'hui qu'elle soit, d'une part, élargie aussi bien aux industriels, à ceux qui exportent vers l'Europe, à la restauration et aux cantines, parce que ça me paraît assez débile de faire appliquer une loi de protection de rémunération des agriculteurs que sur la seule distribution qui n'est pas le premier client de l'agriculture.
C'est-à-dire, Michel-Édouard Leclerc, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'en fait, une partie de, vous dites, les cantines, la restauration, en fait, ne joue pas le jeu aujourd'hui?
Absolument. Les cantines, c'est à peine 30% de produits français dans leurs appels d'offres. Et si vous allez à Rungis, c'est pas du tout appliqué non plus, et vous savez bien que les...
C'est-à-dire quoi? Vous demandez à Rungis, par exemple, précisément combien ils ont négocié la matière première agricole?
Pour les agriculteurs, défendant la ferme France, et quoi qu'on dise de la grande distribution, je demande, mais je pense que mes collègues demandent la même chose à la Fédération du commerce et de la distribution, que la loi qui nous empêche de renégocier, y compris à la hausse, la matière première agricole, soit appliquée à tout l'ensemble des acheteurs. C'est pas le cas.
Il y a quoi? Il y a une forme d'hypocrisie?
Oui, il y a une forme d'hypocrisie, de recherche de bouc émissaire. Il y a une deuxième chose.
Vous fait porter le chapeau, quoi.
Ouais, il y a une deuxième chose. Et ça, c'est vraiment très important aujourd'hui, alors que les marchés sont libres, notamment en Europe, les indications d'origine. Mmh. Alors, nous, distributeurs, aujourd'hui, nous menons le combat, et Leclerc, on met l'origine du produit. C'est Olivia Grégoire qui avait lancé l'idée Origine Info.
Quand elle était ministre de la Consommation.
Et aujourd'hui, on met de l'origine des quatre principaux ingrédients, même d'un plat transformé, composé, etc. Je demande à ce que les industriels appliquent ça, c'est-à-dire que eux aussi, sur tous les produits dont ils nous demandent de ne pas négocier les produits agricoles, la part agricole, qui mettent les indications d'origine.
Mais vous pensez à quoi? C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple, je sais pas, d'une pizza Buitoni ou de ne sais quoi. Est-ce que vous demandez dans ces cas-là à Buitoni, par exemple, de vous dire exactement d'où vient le jambon, d'où vient le morceau de champignon, d'où viennent les tomates de la sauce tomate et d'où
vient
le blé?
Absolument, parce que vous voyez. Moi, je veux bien ne pas avoir à négocier le prix du cochon breton, mais si c'est du cochon espagnol, je vois pas pourquoi je ferais payer le consommateur français plus cher pour le cochon espagnol.
En fait, la loi Egalim, elle touche les produits français. Donc, ce que vous dites, c'est que dans des produits, y compris de marques françaises ou étrangères, ils doivent eux aussi être transparents sur l'origine agricole.
Oui.
De tout ce qui rentre dans la composition
autant,
de leur plat.
Autant je suis pour défendre la ferme France, voire rémunérer plus la ferme France, mais si les industriels sont exonérés de dire d'où vient leur cochon, leur lapin, leur poulet, etc., à ce moment-là, on demande aux consommateurs de payer plus cher des agriculteurs étrangers. Et c'est quand même pas normal. Et ça, c'est quand même une hypocrisie.
Mais quelles seraient les conséquences, pardon, mais tirons le fil jusqu'au bout, Michel-Édouard Leclerc. Vous dites, voilà, moi, je veux qu'ils puissent dire. Et alors, à ce moment-là, on va se rendre compte que, je sais pas, moi, que sur la Regina de je ne sais quelle marque, ben en fait, le jambon, il est espagnol ou polonais. Quelle sera la conséquence? Qu'est-ce que vous vous direz, Michel Leclerc,
quand vous achèterez la pizza? Je pense que la jeune génération, et même aujourd'hui, ma génération...
Est-ce que la conséquence sera pour le consommateur ou est-ce que la conséquence sera pour vous dans la négo des prix?
La conséquence sera pour l'agriculteur. L'agriculteur français doit pouvoir bénéficier d'une exception agricole comme il y a une exception culturelle. Il faut qu'on puisse soutenir la ferme France. Et la ferme France, c'est pas simplement le grand distributeur qui doit être obligé de la soutenir. Ça doit être aussi la restauration, ça doit être les cantines. Et et je suis persuadé en plus que les consommateurs vont regarder ça. De la même manière, ils vont regarder, il y a le débat sur la réintroduction des néocotinoïdes dans les betteraves, pour le sucre et tout ça. De la même manière, moi je pense aussi, c'est une troisième idée forte, c'est qu'il faut développer, généraliser le Nutri-Score. Nous voulons savoir ce qu'il y a dans les produits. On veut connaître l'origine, on veut savoir combien de carbone ça crame.
Et on veut savoir la qualité.
Et on veut savoir la qualité. Et donc je vais signer la pétition, à titre personnel, je vais signer la pétition du Dr Ehrberg, qui est le promoteur.
Qui demande l'obligation en fait du Nutri-Score et que ce ne soit pas uniquement les marques.
Et je pense que tous les distributeurs pourront faire de même. En tout cas, j'inviterai tous les consommateurs à signer. Parce que aujourd'hui, c'est quand même un effort, une pédagogie. C'est pas idéal. On peut discuter certains points, des critères, mais c'est le début d'une pédagogie où tout le monde va regarder ce qu'il mange, ce qu'il achète. Et je suis persuadé, vous voyez, un peu comme les jeunes aujourd'hui qui achètent des vins pour regarder si c'est sans sulfite ou avec sulfite. Je pense que ça, c'est tout ce qui se passe sur le climat, la fatigue, le corps, tout ce qu'on discute sur la souveraineté alimentaire, on doit faire ça.
Michel-Edouard Leclerc, c'est vrai qu'Olivier Faure vous a proposé de participer à la primaire de la gauche?
Oui, c'était dans des conditions plus sympathiques et plus drôles que telles que relayées. Oui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une boutade?
Non, je pense qu'ils veulent savoir si c'est du lard ou du cochon. Le fait que je sois coté à la bourse des présidentiables. Et donc, moi, j'en profite du coup. J'ai rien demandé, hein. Vous me connaissez un peu. Mais par contre, je me aperçois que, j'intéresse non pas parce que justement je représente 18 millions de clients et un réseau national, ça on me pose aucune question comme vous sur ce qui se mange, ce qu'il faudrait faire, mais par contre quand je suis cotable et donc concurrentiel
mais
sur
mais vous avez envie d'y aller ou pas?
Non, je suis beaucoup
vous
plus
vous avez pas du tout envie d'y aller non, ou vous avez un peu envie d'y aller ou non, vous non, pourriez non. avoir envie d'y aller?
Je pourrais avoir envie d'y aller voilà. Parce que je trouve que en fait les sujets essentiels des Français, les sujets sur le pouvoir d'achat, sur les salaires, la réduction des écarts de salaire entre le brut et le net, tout ça, c'est le mode de vie des Français, je trouve qu'il n'y a pas de projet collectif.
Vous seriez de droite ou de gauche?
Je pense que je serais progressiste, humaniste. Je sais pas quoi, je voudrais un projet collectif avant de dire la différence. Avant de dire chacun, je veux faire mes 12% pour me retrouver face au Front National, je pense qu'il faut faire 51% des Français d'accord sur un projet collectif.
Et vous déciderez quand?
Oh, mais vous m'y aiderez?
Non, je vous écouterai, je vous poserai des questions, effectivement, et c'est donc on verra bien si à un moment vous lâchez le morceau. Si vous dites si c'est du lard ou du cochon.
Ouais. Pour le moment, regardez tout ce que je suis en train de dire.
En tout cas, tant que vous acceptez de venir répondre aux questions, je pourrai la poser. Et est-ce qu'à un moment vous allez vous planquer?
Non, jamais. Bon. Je me planque pas. Non, je suis un mode combattant, action. Je vous l'ai déjà dit, philosophie
Teddy Riner. Mais je sais que, par exemple, il y en a certains qui disent à gauche, il faut attendre l'automne, c'est à l'automne que ça va se décanter. À droite, Jean-François Copé, qui était mon invité ici même, dit, c'est pas avant l'été, mais c'est au retour de l'été.
Je pense exactement comme mes autres collègues distributeurs qui sont sur le terrain, et notamment Dominique Schelcher, je crois que c'était chez vous qu'il le disait. Il y a des sujets très angoissant pour la société française. Personne n'y répond. Pour le moment, il y a des chefs de paroisse, chacun dit c'est moi. On parle d'alliance et tout ça, mais il n'y a pas de contenu.
Et donc, si vous estimez que personne ne répond à ces questions-là, vous irez?
Et s'il n'y a personne pour répondre à ces questions-là, il faudra bien y répondre. Alors, je ne sais pas encore quelle est la manière la plus efficace par laquelle on répondra.
Vous avez vu, je ne vous ai pas répondu, j'étais malin.
Mais je
vous reposerai la question, vous pouvez compter sur moi. Merci Michel-Edouard Leclerc d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h47.
Merci Apolline. Les défaillances d'entreprises en hausse cette année encore. C'est l'information qu'RMC dévoile ce matin. C'est le choix de la rédaction dans un instant. Et puis le journal de la Coupe du Monde avec Virginie Fulpin. Restez bien sur RMC. On revient tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h50 sur RMC. Virginie Fulpin est avec nous. Le mondial de Virginie à suivre. Bonjour Virginie.
Bonjour.
C'est dans un instant avec les toutes dernières infos sur le mondial et les derniers huitièmes de finale. Mais avant cela, on va parler de défaillances d'entreprises. Elles sont en hausse. Bonjour Victor Joannin.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes reporter au service économie société d'RMC. Et c'est une exclusivité RMC ce matin. Il y a 34 000 défaillances au premier semestre. C'est 5% de plus qu'il y a un an. Et pour tous ces patrons au tapis, il y a un passage incontournable. Le tribunal de commerce. Victor, vous avez passé une journée en immersion au tribunal de commerce d'Avignon.
Oui, des dizaines de chefs d'entreprise poussent les portes du palais de justice chaque semaine, soit parce qu'ils sont convoqués, soit parce qu'ils viennent demander de l'aide pour redresser leurs comptes. On les reconnaît facilement, ces patrons. Les traits tirés, la mine sombre, le dos courbé comme chargé d'un poids et l'air intimidé par la solennité du lieu.
C'est très dur.
Toi, tu es un petit campagnard de ton truc, tu n'as jamais eu à faire la justice de toute ta vie, et tu te retrouves là avec... je sais pas si ça s'appelle la salle des pas perdus, mais si c'est la salle des pas perdus, ouais, là pour le coup, ça porte bien son nom. Hein.
Patrice a 62 ans, il est aujourd'hui contraint de lâcher son imprimerie et de prendre sa retraite pour éponger ses dettes. Cette imprimerie, il l'avait fondée au début des années 80, une entreprise florissante jusqu'à 16 salariés. Mais à partir des années 2010, changement d'époque.
Oui, le numérique prend la place du papier.
Voilà, Patrice perd ses contrats et il n'écoute pas son expert comptable qui lui conseille de licencier.
Comme c'était une petite boîte familiale, il fallait prendre des décisions qui étaient drastiques. Et j'ai pas voulu les prendre, parce qu'il y avait des gens avec qui je travaillais depuis 40 ans. J'avais été au baptême, j'avais été au mariage, j'avais été à des anniversaires. Donc tu essayes de tenir, et puis voilà. Et au moment, tu te retrouves là, sur Avignon, au tribunal.
Au tribunal d'Avignon, les audiences s'enchaînent. Frédéric sort de la sienne, il vient de demander au juge de liquider sa petite entreprise de carrosserie.
C'est très bien passé, les gens sont très compatissants, très aimables, ils savent bien de quoi ils parlent, ils connaissent bien les problèmes. Là, bon, là, je vais être quand même avec un liquidateur et après je serai libéré. C'est le mot, voilà. Sort du tribunal, on est libéré.
Oui, libéré de cette pression permanente, Frédéric repart soulagé d'un énorme poids. Le liquidateur va l'aider à vendre son matériel pour effacer son ardoise. Il a perdu sa boîte, mais il retrouvera facilement du boulot comme carrossier.
Frédéric parlait des juges, ils savent de quoi ils parlent, disait-il. On a l'impression que ce ne sont pas des juges classiques.
Et ils portent une robe noire, mais ce sont eux-mêmes des dirigeants d'entreprise qui exercent tous bénévolement à l'image de Grégory Herbé, expert comptable basé dans la ville d'Orange.
Je pense que ça c'est important pour le chef d'entreprise de savoir qu'en face de lui, il a des gens qui connaissent les mêmes difficultés, qui connaissent les mêmes soucis, qui ont les mêmes inquiétudes, mais on a aussi un rôle de magistrat avant tout. Et le magistrat, il est aussi là pour veiller et sanctionner les comportements déviants.
Des patrons malhonnêtes, il y en a beaucoup, Victor.
Ça existe, mais c'est une minorité. Hein. La plupart de ceux qui défilent au tribunal sont des petits patrons isolés. Et pour eux, eh bien, c'est trop souvent les 3D, comme on dit dans le jargon. Hein. 3D, dépôt de bilan, divorce, dépression. Or, si le patron pousse la porte du tribunal suffisamment tôt, un juge de la prévention peut l'aider à éviter la faillite. Et malheureusement, eh bien, vous l'avez dit, hein, les défaillances d'entreprise sont à des niveaux records. Au tribunal d'Avignon, on est à plus 10% sur les 6 premiers mois de l'année.
Merci Victor Joinin pour cette exclusivité, reporter au service économie et sociale d'RMC. La Coupe du Monde est déjà terminée pour le Brésil.
RMC, le mondial de Virginie.
Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. Les Brésiliens ont été battus hier soir 2-1 par la Norvège en 8e de finale.
Alors on se moque tout de suite moins des tonnes de poissons transportées dans les soutes par les Norvégiens ou du fameux Viking Row des supporters. Voilà, la Norvège, non, ça n'est pas que du folklore, ça n'est pas que l'équipe bis qui a perdu contre la France, c'est l'équipe qui sort le Brésil avec un doublé d'Erling Haaland. Il en est déjà à 7 dans la compétition, c'est-à-dire comme Kylian Mbappé, comme Lionel Messi. C'est la fin d'une époque hein, aussi, puisque Neymar a annoncé sa retraite internationale après cette défaite. J'ai essayé, maintenant c'est fini. Voilà ce qu'il a dit.
Alors ça va toucher Désiré Doué ce départ.
Neymar est l'idole de Désiré Doué. Et samedi soir, après avoir provoqué le pénalty qui a donné la victoire à la France contre le Paraguay, le joueur du PSG a dédicacé un maillot pour Neymar, comme le Brésilien l'avait fait pour lui quelques jours avant, pour mon idole, avec toute mon affection.
Ah bon, papa.
avec le petit accent d'antan. Voilà, ça va mettre du baume au cœur de Neymar.
La Fédération française de foot va demander l'annulation du carton jaune de Michael Olise.
Un carton pris dans le temps additionnel interminable de 8e de finale. L'arbitre l'a infligé à Michael Olise pour une altercation avec le Paraguayen Mathias Galarza. Oui, sauf que les images montrent bien que le numéro 11 des Bleus ne touche absolument pas son adversaire. Il met son doigt devant sa bouche pour lui dire de se calmer. On a déjà vu plus violent comme geste. C'est important cette réclamation parce qu'imaginez que Michael Olise prenne un autre carton jaune contre le Maroc en quart de finale et que la France se qualifie pour les demi. Bah lui, il jouerait pas cette demi-finale. On a déjà sa chanson, on va pas nous gâcher la fête quand même. Hein.
Les Français, ils parlent anglais. Bonjour. Et ils enchaînent les pastés. Bientôt sur les Champs-Élysées, Michael Olysée, en double.
Ouais, on l'aime bien quand même, ça marche bien, faut reconnaître. Hein, donc,
on l'attendait.
Bah, bien sûr, on l'attendait tous depuis le départ. Et on veut aller au bout avec ça. Donc c'est pas un carton jaune qui va nous saper le tube de l'été. Attention, hein, y a deux autres joueurs français qui sont sous le coup d'un carton jaune. Manu Koné, Bradley Barcola.
Apparemment, maintenant, on peut prendre un carton rouge sans être suspendu au match d'après.
Ah ben, ça dépend qui vous êtes et qui vous avez comme appui. Hein. Donald Trump aurait passé lui-même un coup de fil à Gianni Infantino après le carton rouge reçu par l'attaquant américain Balogun en 16e de finale contre la Bosnie. C'est le New York Times et d'autres médias américains qui le rapportent. Vous pensez bien que le président de la FIFA a écouté attentivement le président américain et hop, Balogun pourra jouer contre la Belgique la nuit prochaine en 8e de finale. Il n'est pas suspendu. Enfin,
c'est
si,
dingue, hein.
Suspendu mais pour un match avec sursis pendant un an. Ça ressemble à une blague ou plutôt à une ingérence inédite et assez grave si elle se confirme. La Belgique se dit stupéfaite et pourrait faire appel devant le tribunal arbitral du sport.
J'aurais dit oui à Donald Trump si tu m'expliques la règle du hors-jeu. Il y a un point commun entre Lionel Messi et Kylian Mbappé dans cette Coupe du Monde, a priori. Ils marquent beaucoup de buts déjà.
Oui, alors 7 chacun, on est d'accord, comme Erling Haaland aussi. Mais c'est pas le seul point commun entre les deux. C'est Opta qui observe tout, calcule tout et fait des stats sur tout qui a compté. Les deux joueurs passent 50% de leur temps sur le terrain à marcher, 50% à courir. Oui, les autres courent plus, mais ils marquent moins. Alors, si Kylian Mbappé continue à marcher la moitié du temps et à marquer autant, j'ai envie de lui dire qu'il ne marchera jamais seul.
Ouais, il peut même y aller en moonwalk, hein, tant qu'il va faire le but. Merci Virginie Fulpin. Suite et fin des huitièmes de finale ce soir en direct et en intégralité sur RMC Radio officielle de la Coupe du Monde. Dans un instant, les GG, les grandes gueules. Quel est le programme, Alain Marchal? Bonjour Alain.
Bonjour à tous. On reviendra quand même sur cette ingérence de Donald Trump dans les histoires de la Coupe du Monde quand même. Est-ce qu'on est face à un véritable scandale? Vous venez en parler bien sûr avec nous. On reparlera des aveux de Cédric Jubilard. Marine Le Pen, est-ce que la présidence se joue demain. Édouard Philippe, son slogan, croire en nous, mais est-ce que vous croyez en Édouard Philippe? Parce qu'il faut que ce soit réciproque, bien sûr. Et puis, on reparlera du canal Saint-Martin, avec un cadavre qui a été découvert dans le canal Saint-Martin. Alors, si vous plongez dans le canal Saint-Martin parce qu'il fait très chaud, soit vous tombez nez à nez avec un cadavre, soit vous vous tapez la tête contre un vélib qui a été balancé, ou alors contre du mobilier urbain jeté par Hamza. Si jamais vous avez passé la douane, bien sûr. Allez, vous venez en parler avec les GG, avec les grandes gueules, en direct sur RMC, au 32-16 avec Didier Giraud, Charles Consigné, Joël Dagosséry.